قل والله وثبت يدا إذا جاء وبليغ 3-4 tu commences par exemple d'en haut et tu descends تيني والزيتون والعصر قل والله وثبت يدا par exemple ensuite tu t'arrêtes ensuite قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس par exemple dans une raka et tu t'inclines. Le prophète صلى الله عليه وسلم disait pardon j'ai pas terminé et parfois il combinait صلى الله عليه وسلم les sept tawal, les sept sourates longues. Il y a sept, ce sont les plus longues, comme le Baqara, An-Nisa, Ali Imran, dans une seule raka. Subhanallah al-Azim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois combiné et joigné entre, a joint une fois entre le Baqara, An-Nisa et Ali Imran dans une seule raka. Imagine-toi. Essaye de prendre le livre, car dans la nafila tu peux prendre le livre. Essaye de prendre le livre, pose-le en face de toi, ou la prends-le dans tes mains, et essaye de faire deux rak'at. Lis dans la première, sourate al-Baqara. Ensuite, lis sourate al-Nisa. Ensuite, reviens vers Ali Imran. Tu sautes Ali Imran, tu vas à Nisa, et tu reviens vers Ali Imran. Et dis-moi si tu peux. Tu verras que. Astaghfirullah, je ne veux pas dire que c'est difficile, mais je veux dire que je ne crois pas qu'on a assez de patience pour faire cela. Tellement, yani, notre foi est faible. Imagine, Baqara, pour que tu la lises du livre, du Coran, ça te prend au moins 10 ans, 1h30 ou 2h. Ensuite, tu as Nisa, qui va te prendre la même chose. Ensuite, tu as Ali Imran. C'est-à-dire, tu resteras debout pour la première raka'a, c'est tout. Tu resteras debout à peu près 5 heures ou plus pour une seule raka. Est-ce que yani, c'est possible que quelqu'un fasse cela? Ne fait celui-là ou là, ne fait cette chose que celui qui a la foi qui déborde, qui a débordé de son cœur. C'est-à-dire quand il est dans la salat, il trouve les plus grands délices du monde. Non. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ju'ilati. Il a dit la chose, yani, que, je ne sais pas comment on dit qurrat ayni fi salat, yani, les délices de mes yeux, Allah Ta'ala a mis la salat dans mes yeux. Ah, tandis qu'on dit à une personne, c'est quoi, par rapport à toi, c'est quoi qurrat ayni? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quelqu'un dira d'aller, je ne sais pas, au cinéma. L'autre, il dira qurrat ayni. C'est d'aller à la montagne. L'autre il dira Qurratu Ayni, c'est mon enfant. Et le prophète Hassan disait Qurratu Ayni, c'est salat. C'est pour ça qu'ils pouvaient faire des salats comme ça. Pourquoi? Plus tu as la saveur, plus tu as les délices de la foi, plus tu veux ne pas quitter la salat. Si tu pouvais, tu ne sortais pas de la salat. Et plus tu n'as pas les délices de la foi, de l'imam, plus ça te dit rien la salat, et tu voudrais vite la bâcler si tu pouvais. Non. Et plus la foi est faible, plus tu sens que la salat est lourde. Non. C'est un poids qu'on a sur les épaules. Alors faisons la salat pour nous en débarrasser. Allez, viens, on va faire la salat. Allez, viens. Masha'Allah, il est soucieux celui-là, il veut faire la salat. Non, c'est pas parce que je la veux. Pour m'en débarrasser, il y a un film qui va commencer dans un quart d'heure. Alors faisons vite la salat pour s'en débarrasser. Et comme ça, Inch'Allah, on a le temps de voir le film qui va durer 3 ou 4 heures. Celui-là, Masha'Allah, il ne va pas nous gêner. Non. Mais la salat, elle nous gêne, là, pour faire vite pour s'en débarrasser. Non. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, si on savait qu'est-ce que c'était la salat. Si on savait, on resterait des heures dans la salat. Mais, puisque notre foi est faible, tu ne peux pas. Non. C'est comme si ta batterie, la batterie de la voiture, chaque voiture marche avec une batterie. La batterie est très faible. Hein, quand une voiture ne marche pas 3 ou 4 mois, la batterie devient très faible. Elle est très faible. Et je te dis, viens, on va aller avec cette voiture, on va faire 200-300 km. Cette voiture ne peut même pas marcher 10 km. La batterie est faible. La même chose. Quand la batterie du cœur est faible, ça te dit rien la prière et tu ne trouves pas quelque chose de sucré dans ton cœur. Tu voudrais t'en débarrasser. Mais si, masha'Allah, tu sens khushu', tu sens l'humilité. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. On gagne les croyants, ceux qui ont l'humilité dans la salat. Avec l'humilité dans le cœur, tu ne veux pas sortir de la prière. Tu sens les larmes qui commencent à couler. Tu sens ta peau qui commence à taqsha'ir, tu sens des poils. Tu sens les poils qui se lèvent comme ça sur ta peau. Tellement tu sens l'humilité, tellement tu sens khushu', tellement tu te sens près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Il a dit la salat, c'est quelque chose de lourd, sauf pour ceux qui ont l'humilité et ceux qui ont le khushu'. Quiconque n'a pas le khushu' dans le cœur trouvera la salat lourde et un poids sur ses épaules. Et quiconque a masha'Allah masha'Allah dans son cœur l'humilité, ils sont la salat masha'Allah. Yani, ils ne voudraient pas sortir d'elle. Allah subhanahu wa ta'ala an yunzila as-sakinata ala qulubina wa an yaghmura qulubana bi halawati al-iman. Bon, je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afdalu salati tulul qiyam. Il a dit la meilleure prière est celle où l'on reste longtemps debout. Alors, muslim at-tahawi hadith sahih. La meilleure prière, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celle où l'on reste longtemps, où l'on reste longtemps debout. Plus tu restes longtemps debout, plus tu as fait l'une des meilleures prières. Plus tu ne lis pas beaucoup, tu lis seulement les petites comme ça surat, plus ta prière, je ne dis pas n'est pas acceptée, astaghfirullah, mais je dis elle est moins bonne par rapport à celui qui a lu beaucoup. Parce que celui qui a lu beaucoup est resté plus que toi debout. Non? Moi, quand je reste debout, pourquoi je reste debout? À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je veux ce qu'il aime. Lui, il aime que je reste beaucoup debout. J'ai même mal au pied, mais je reste debout. Je me force un peu. Non? Donc je fais des choses pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va me donner plus de ajr pour quelqu'un qui n'est pas resté beaucoup debout et qui s'est vite incliné. Et vous savez que, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour vous rappeler, c'est tout. Zakir, fa inna dhikra tanfa'u al-mu'min. Il rappelle le rappel profite aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, a dit, quand quelqu'un se met debout et rentre dans la prière, dit Allahu Akbar, Allahu Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, ordonne qu'on rapporte tous les péchés de ce bonhomme, tous les péchés de cette personne qui a dit Allahu Akbar, qui est rentrée dans la salat, et qu'on lui mette, il dit Allah Azza wa Jal, demande aux anges qu'on mette sur les épaules de cette personne qui a dit Allahu Akbar, qu'on lui mette tous ses péchés sur ses épaules. Imagine, nous combien qu'on fait de péchés par jour? On fait des montagnes. Dès que tu dis Allahu Akbar, il y a des montagnes de péchés que Allah Azza wa Jal met sur tes épaules. Et plus tu es debout, et plus tu dis Allahu Akbar, tu t'inclines, et plus tu te relèves, et plus tu fais les soudoudes, et les péchés sont en train de tomber comme tombent les feuilles d'un arbre pendant le printemps. Vous voyez, les feuilles tombent toutes seules. Juste un petit vent, elles tombent. Et sans le vent, elles tombent, parce que c'est le moment où elles doivent tomber. Dès que tu dis Allahu Akbar, Allah Ta'ala met tes péchés sur tes épaules et commence à tomber jusqu'à ce que tu dises Salam alaikum. Ça, c'est l'un des plus grands avantages de la prière. Celui qui ne fait pas la prière, ses péchés ne changent jamais. Depuis qu'il fait des péchés, ils sont toujours là. en train de le guetter et de l'attendre pour qu'il meure. Toi, chaque fois que tu rentres dans la prière, mashallah, regarde combien de péchés tu fais tomber de idnillahi azawajal. Naam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait surat al-qiyama, et il arrivait à la fin du verset, à la fin de la sourate, où il est dit alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mawta. C'est une question à la fin, à la fin. Allah Azza wa Jalla pose une question, mais pas une question interrogative. C'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Pour te dire si, hein, c'est comme je te dis, ne suis-je pas comme ça? Yani, si, je le suis. Allah Ta'ala a dit, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Allah Ta'ala, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? C'est ça la question. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait cette phrase dans la salat, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Subhanaka fabala, que les louanges soient sur toi. Si, yani, si, tu es capable. Donc, quand il lisait cette phrase, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta, il se répondait, sallallahu alayhi wa sallam, il disait Subhanaka fabala, louange soit sur toi. Si, si, yani, tu peux. Non. Et quand il lisait, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, il lisait surat Sabbih. Subhanaka. Là, pas mal là, corrige, barklovik. Subhanaka. Il n'y a pas le ta. Subhanaka fabala. Malish. Il y avait quelqu'un qui devait m'aider, mais Allah yahdi. Malish, je vais t'écrire moi. Comment on va écrire cela? Subhanaka fabala. Fa. Naam, subhanaka, jazakallahu khair. Fabala. C'est comme ça que c'est écrit dans le livre. Subhanaka fabala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait sourate Sabbih, Sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa fasawwa, alladhi qaddara fahada, qu'est-ce qu'il disait? Dès qu'il disait Sabbih isma rabbika al-a'la, il s'arrêtait et disait Subhan rabbiya al-a'la. Il s'arrêtait et disait Subhan rabbiya al-a'la. C'est-à-dire Allah Ta'ala, quand il a dit glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, Sabbih isma rabbika al-a'la, c'est un ordre, hein? C'est un ordre, Sabbih, glorifie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, obéissait, il disait Subhana rabbiya al-a'la, Subhana rabbiya al-a'la. Donc c'est une sunna, quand tu lis Sabbih, tu dis Sabbih isma rabbika al-a'la, tu t'arrêtes, tu dis Subhana rabbiya al-a'la et tu termines. Là, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud et le Bayhaqi avec sanad sahih. Cheikh Al-Albani a dit ce hadith est général, ainsi il s'applique aux deux récitations pendant la prière, soit qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Parce que certains ulama ont dit que ça ne se fait que dans le surérogatoire. Yani, si tu fais salat obligatoire, tu ne dis pas subhanahu wa ta'ala, tu te tais. Cheikh Al-Bani a dit non. Certes, certains compagnons ont dit que on ne faisait ceci que dans la prière surérogatoire. Il a dit mais le hadith est général. Le hadith est général. Tu peux faire dans l'obligatoire et tu peux faire aussi dans le surérogatoire. Maintenant, il y a un titre qui... Ah, naam, ça m'a rappelé une chose. De temps en temps, yani, je me rappelle des choses que je sais que les gens fassent. Naam. Certaines personnes, mais beaucoup de personnes, quand elles lisent Sourate Tin. Attendez, pour que je sois sûr que c'est elle. Tin et Ozaïtoun et Otorisini, ou elle balade Amin, la Khalak Matin, ou Sama, qui a sali Tokun, tout marre de nous, je fais la Safidin. Non, c'est pas celle-là. Ah, puisqu'elle sera. Bon, une seconde, je cherche la Sourate à dire. Subhanallah, la Radim. Ta'amallah, rappelle-moi la sourate à la fin où il dit Fama yukadibuka ba'du bid-din. Naam, c'est Tin, là. Subhanallah, Tin, c'est Tin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم سورة التين. نعم سي صار تيني والزيتون على فان سي كوا على فان. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ها بكوني سي لابتيت سورة على فان. أليس الله بأحكم الحاكمين. بوكو جون يسي ديز كوا يديز بلا. نعم يديز بلا سيختان ديز بلا إنه أحكم الحاكمين. نعم سا سوني بافري سا. Cheikh Al-Albani a dit dans son livre qui s'appelle Tamam al-Minnah, il a dit il n'y a pas une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici pour dire Bala. Bala, ça veut dire en français si. Car Allah Ta'ala a posé une question. Il a dit Alayhi sallallahu bi hakam al-hakimin. C'est pas Allah yani, le meilleur de ceux qui jugent. Beaucoup de gens disent Bala, si. Alors que ce n'est pas vrai. Si, ça se dit dans les deux endroits où je l'ai dit. Non, dans les deux endroits. Où je l'ai dit, c'est-à-dire sourate Al-Qiyama et sourate Sabbih, mais pas dans sourate Tin. Rappelez-vous bien ça, car vous entendrez beaucoup de gens, quand ils terminent sourate Tin, ils disent Alayhi sallallahu bi ahkami al-hakimin, ensuite ils disent Bala. Non, ça ce n'est pas vrai. Ensuite, un nouveau titre, la permission de ne réciter que sourate Al-Fatiha. Le titre s'appelle Jawaz al-Iqtisar al-Fatiha. C'est-à-dire que, de ce titre, on va voir qu'il est permis à quelqu'un de ne lire que sourate al-Fatiha, sans ajouter quelque chose. Je lis sourate al-Fatiha et je m'incline. Je lis sourate al-Fatiha et je m'incline. Non. Quoique, ce n'est pas des choses conseillées. Ce sont des choses permises, mais qui ne sont pas conseillées. Inch'Allah Ta'ala, vous faites la différence entre une chose qui est permise et une chose qui est conseillée ou là, qui n'est pas conseillée. Non. Car ce n'est pas tout permis et conseillé, mais tout conseillé est permis. C'est le contraire. Toute chose conseillée est permise, et non pas toute chose permise est conseillée. Tayyib. Wakana, quel est le dalil? Le dalil qu'on peut lire sourate al-Fatiha seulement. Sourate al-Fatiha seulement. Tayyib. Il y avait un compagnon djalil qui s'appelait Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu. Il faisait la prière l'Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina, donc à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se mettait derrière comme tous les gens et le prophète alayhi wa sallam les guidait salat l'Isha, et Mu'adh ibn Jabal se trouvait avec les gens derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite quand il terminait, regardez bien, quand il terminait la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, revenait à Bani Salama. Il allait dans un petit village, et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il guidait les gens en salat al-Isha. Subhanallah al-Azim. Donc vous avez bien compris. Moi, par exemple, je vais dans une mosquée. Je trouve l'imam qui va nous guider, il va faire salat al-Isha l'imam, moi je suis derrière lui. Quand le imam termine salat al-Isha, qu'est-ce que je fais? Je pars dans un autre village, j'arrive dans une mosquée, je trouve que les gens sont en train de m'attendre pour que je les guide pour salat al-Isha. Et pourtant, vous savez que je viens de faire salat al-Isha. Et eux bien sûr savaient que Mu'adh faisait la prière de la Isha derrière le prophète Islam et l'attendait parce qu'il n'avait pas quelqu'un de mieux qui pouvait les guider. Al-Muhim. Là, avant d'avancer, il vaut mieux que j'ajoute l'avantage en sa place, c'est mieux. Vous savez qu'il y a un hadith qui dit que ça ne se faisait pas de faire deux fois la même salat en un même jour. Ça, c'est un hadith sahih. Il y a un hadith qui est interdit. Tu ne peux pas faire deux fois la Isha dans le même jour. Deux fois le Dhuhr, deux fois l'Asr. C'est interdit. Allah Ta'ala n'a écrit qu'une seule prière par jour. Un seul Dhuhr, un seul Asr, un seul Maghrib, une seule Isha, un seul Subh. Il n'y a pas deux. C'est pour ça que, entre parenthèses, imagine que quelqu'un, par exemple, est groupé entre deux salats. Quand j'étais en voyage, j'ai fait, par exemple, j'ai fait Dhuhr et Asr. Là, j'ai groupé. Le Asr, je l'ai fait avec le Dhuhr. Maintenant, j'arrive chez moi, j'entends le Adhan. C'est quel Adhan? Adhan Asr. Ça, je suis chez moi à la maison. Adhan Asr. Est-ce que je vais faire Salat al-Asr? Si je vais faire Salat al-Asr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis rentré dans le hadith qui m'a interdit, le hadith m'interdit de faire la même salat deux fois. Et moi, mon asr, je l'ai fait il y a deux heures, je l'ai fait avec le dhuhr. Donc je n'ai pas le droit de le recommencer. Car beaucoup de gens ne savent pas. Ils disent, subhanallah, moi j'ai fait le asr tout à l'heure en voyage, et maintenant j'entends le adhan. Comment je fais? Je répète le jeu. Tu ne répètes rien. Toi, tu as fait ta salat, ça fait deux heures. Là, c'est terminé. Tu ne peux pas refaire une autre salat. Donc, ici, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, comment se fait-il qu'il faisait deux fois l'Isha? Il le faisait une fois derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il allait à son village et il faisait l'Isha une deuxième fois. La réponse est très simple. C'est quoi? Quand il allait guider les gens, il ne mettait pas dans l'intention que c'était salat Isha. Il met dans l'intention que c'est une salat surérogatoire. Non, s'il mettait ses Isha, c'est grave. Il ne peut pas faire deux Isha. La Isha, il l'a faite il y a deux heures avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou là une heure. Maintenant, pour pouvoir guider les gens, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait dans sa tête l'intention que c'est une prière nafila surérogatoire. Et les gens mettent l'intention derrière lui que c'est une prière obligatoire. Donc, ça va nous donner un autre avantage, lequel? C'est que il est permis que deux personnes fassent la prière ensemble, chacun avec sa niya, chacun avec son intention. Toi, tu vas me guider dans la prière, tu mets dans ta tête que c'est par exemple salat al-Isha, et moi je mets dans ma tête que c'est salat al-Maghrib. Subhanallah al-Azim. Ou bien, toi, tu vas me guider en mettant dans ta tête que c'est une salat obligatoire, c'est Dhuhr par exemple, et moi je suis derrière toi, je mets dans ma tête que c'est une salat nafila, car mon Dhuhr je l'ai fait tout à l'heure par exemple, et tu m'as demandé de faire la prière avec toi juste pour faire un groupe. Ou bien le contraire, toi tu me guides avec l'intention dans ta tête que c'est une salat nafila, et moi je suis derrière toi avec l'intention que c'est une salat fard obligatoire. Quels sont les délais? Prenons le délit pour le premier cas. Le premier cas, c'est quoi? Quelqu'un me guide. Lui, entre parenthèses, tout ça pour dire à ceux qui s'accrochent beaucoup au madhahib. Ils sont chauvins. Ils te disent, Malikiya ne permet pas ça. Shafi'iya ne permet pas. Hanabila, Hanafiya ne permet pas. Tu lui dis, ya akhi, smahli. Quand il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de hanbalites, ni malikites, ni shafi'ites, ni rien. Ce sont des grands ulama. Allah yarhamhum, radiyallahu ta'ala anhum. Nishhadu lahum, kama qala al-Sheikh ibn Uthaymeen, Allah yarhamhum. Qala nishhadu lahum, inshallah, bil jannah. Mais, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent doit être mieux que ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour le premier cas. Le premier cas, c'est quoi? Quelqu'un me guide. Lui, avec l'idée, avec l'intention du surérogatoire, et moi derrière lui, avec l'intention de l'obligatoire. Quel est le dalil? Le dalil, on vient de le citer. Mu'adh ibn Jabal va guider les gens, et a guidé les gens, et le hadith est dans le Bukhari, a guidé les gens avec, dans l'intention surérogatoire, et les gens derrière lui avec l'intention de quoi? De l'Isha. Naam. Deuxième dalil, je te donne un deuxième dalil. Apprends les dalil, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Apprends les dalil. Quand tu parles avec des gens, si tu n'as pas de dalil, on n'accepte pas. On te dit, toi, tu parles ta tête. Et aussi, pour apprendre aux gens du madhahib, pour ne pas être chauvin. Il te dit, l'imam Malik a dit, tu lui dis, barakallahu fik, l'imam Malik, c'est un grand alim. Mais regarde, Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce qu'il a fait. Il faisait la prière surérogatoire et les gens derrière lui faisaient la Isha. Pourquoi ça a été accepté? Car ils vont te dire que c'est pas accepté. Comment? Alors, Nafila, c'est petit surérogatoire. C'est petit par rapport à obligatoire. à la rigueur, ils vont te dire, si l'imam fait l'obligatoire et celui qui est derrière lui, surérogatoire, à la rigueur, l'imam a fait quelque chose de grand, c'est-à-dire quelque chose d'élevé, l'obligatoire, et derrière lui, on fait la surérogatoire qui est moins élevée. Mais pas le contraire. Tu dis, smahli, regarde ce que faisait Mu'adh ibn Jabal et le prophète Islam. On lui a raconté l'histoire et tu vas voir ce qu'il va dire à la fin. Al-Muhim. Le premier dalil que tu pouvais faire la prière derrière quelqu'un qui, lui, il fait surérogatoire et toi obligatoire, c'est Hadith Mu'adh que je viens de citer. Le deuxième dalil, c'est quoi? C'est que je vous l'ai dit plusieurs fois dans le Sahih Abi Daoud, un enfant de 5 ans, dans un autre hadith, il est dit 7 ans. Un enfant de 7 ans a guidé, il s'appelle Amr ibn Salima. L'Albani a dit hadith en Sahih, fait Sahih Abi Daoud. Amr ibn Salima, un enfant de 7 ans, guidé les compagnons du prophète Sassoum en son époque. Il est guidé Sobh, Dor, Asr, Maghrib et Isha. Et pour vous rappeler bien de lui, je vous avais dit que il était tellement pauvre et mal habillé que quand il faisait la prosternation, les gens qui étaient derrière lui et les femmes qui étaient aussi derrière lui, les femmes disaient aux hommes, dites à votre imam de se couvrir, dites-lui de se couvrir quand il fait la prosternation. On voit tout de lui. Dites-lui de se couvrir. Subhanallah, tellement yani, c'était déchiré, il n'avait rien. Et ce compagnon, ce petit compagnon, Amr ibn Salima, radiallahu ta'ala anhu, a dit, alors les compagnons, yani, ont fait une quête et ils m'ont acheté une cape, mashallah. C'était le plus beau cadeau de ma vie. On m'a donné une cape. À partir de ce jour, je la mettais toujours pour la prière. Donc, celui-là, qui avait seulement 7 ans et guidait les compagnons et les compagnonnes, radiallahu ta'ala anhum. Pour quelqu'un qui a 7 ans, est-ce qu'il est obligé de faire la prière? Il n'est pas obligé de faire la prière. Donc, quelqu'un qui a 7 ans et qui fait la prière, Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il va lui compter la prière? Comme obligatoire ou la nafila, surérogatoire? Comme surérogatoire. Parce que pour qu'il, Allah ta'ala, pour qu'il lui écrive la prière obligatoire, il faut qu'il soit pubère. À 7 ans, personne n'est pubère. Donc, celui-là faisait bien sûr le Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, mais Allah ne lui écrivait que quoi? Que c'était une nafila pour lui. Et pour les compagnons, c'est quoi? C'est une salat obligatoire. Donc voilà une deuxième preuve que quelqu'un qui fait une prière surérogatoire peut nous guider, nous, en faisant une prière obligatoire. Maintenant, le contraire. Je vais donner le délil du contraire. C'est-à-dire, quelqu'un va nous guider, lui, avec l'intention d'une prière obligatoire, et moi derrière lui, avec l'intention d'une prière surérogatoire. Le premier délil, c'est quoi? Le premier délil. Pardon. Le premier délil, c'est la logique. C'est quoi la logique? La logique, ou bien, c'est ce qu'on appelle l'analogie. Analogie par contrariété, on va dire, si il est permis en islam que celui qui me guide, subhanallah al-azim, celui qui me guide peut faire l'intention de la surérogatoire et moi derrière lui je peux faire je fais avec la salade de l'obligatoire, c'est permis. Donc, si c'est permis en islam, l'imam, subhanallah, qui me guide, qui doit être plus élevé, fait l'intention de la nafila. Et moi, derrière lui, obligatoire. N'est-il pas possible alors le contraire? C'est-à-dire, moi qui le guide, je fais avec l'intention de l'obligatoire, et lui qui est derrière moi, qui ne compte pas beaucoup, c'est moi qui compte, c'est moi l'imam. Et lui derrière moi, salat, il fait l'intention surérogatoire. Donc ça c'est plus possible et c'est plus plausible aussi. Donc c'est le dalil de quoi? De qiyas aks. Deuxièmement, dans le Sahih Tirmidhi du Cheikh Al-Albani, il a cité un hadith, il a dit hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec quelqu'un. Exactement, il était assis avec Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, le meilleur homme après les prophètes. Ensuite, il y a quelqu'un qui est rentré. Sur quelqu'un qui est rentré, il a trouvé Salat al-Asr qui était terminée. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il est allé devant un pilier et il a commencé à faire la prière seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis avec un certain nombre de gens, a dit aux compagnons radiallahu ta'ala anhum, quiconque de vous voudrait-il faire l'aumône à cette personne? Men yatasaddaqu ala hada. Quiconque de vous voudrait faire l'aumône à cette personne. C'est quoi faire l'aumône ici? C'est-à-dire faire la prière avec lui. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhum a dit ana rasulullah. Vous savez que Abu Bakr Siddiq, il n'y a pas quelqu'un qui aime faire le bien plus que lui. D'ailleurs, vite, il a dit « Ana Rasulullah ». Un moyen. Il est allé vers le sahabi radiallahu ta'ala qui était en train de faire la prière seul et il s'est mis à sa droite. Il a dit « Allahu Akbar », il s'est mis à sa droite. Regardez. Quel avantage on tire de ce hadith? Premièrement, premier avantage, les gens savaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y avait pas un deuxième groupe et un troisième groupe et un quatrième groupe dans la mosquée comme dans nos mosquées d'aujourd'hui. Toutes les 5 minutes il y a un groupe qui commence une prière en groupe, toutes les 5 minutes. Des fois il y a même deux groupes qui font la prière en même temps, ceux-là à gauche et les autres à droite. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, celui-là a fait la prière seul. Il savait que ça se faisait pas. Deuxième avantage. Abu Bakr Siddiq est rentré avec lui dans la salat sans lui demander la permission. Ça veut dire, ce n'est pas obligé pour l'imam qu'il fasse dans sa tête l'intention de guider un autre. Il était en train de faire la prière seul, il y a quelqu'un, il s'est mis à sa droite, il a continué la prière. Ça veut dire que ce n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que les gens te diront, subhanallah l'adem, comment il peut le guider alors qu'il n'avait pas l'intention de guider? Il l'a faisait pour lui-même. Tu lui dis, ça n'a rien à voir. Voilà le hadith, tu lui cites le hadith. Abu Bakr Siddiq s'est mis à sa droite, et le prophète Aslam, en face, en train de regarder, ils ont fait la prière, ils ont terminé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, pourquoi toi, tu n'as pas changé d'avis dans la tête, et tu t'es pas dit, je vais transformer l'intention de seul vers quelqu'un qui guide. Il lui a rien dit des choses pareilles. Un mohim. Troisièmement, donc on prend ce hadith que toi tu es à la maison en train de faire la prière seul. Ensuite, par exemple, entre quelqu'un, par exemple, supposons que tu sois une femme, tu es en train de faire la prière seul. Ensuite, entre quelqu'un qui a déjà fait la prière ou qui ne l'a pas faite. Surtout si c'est une femme, elle vient donc à ta droite, elle se colle à toi. Même si toi, tu ne savais pas que tu allais guider. Maintenant, tu es devenu une femme qui guide. Subhanallah l'adé. Troisième avantage très important, c'est que le bon homme faisait la prière, laquelle? Faisait la prière de Asr. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu avait fait salat al-Asr. Avait fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'a fait une deuxième fois à cause de l'homme pour qu'il la fasse pas seul. Et donc c'était pour Abu Bakr, c'était quoi? C'était une nafila, surérogatoire. Donc voilà le délit que quelqu'un peut guider quelqu'un. Celui qui guide salat, il l'a fait en obligatoire, et celui qui est guidé avec lui l'a fait en nafila, surérogatoire, comme l'a fait ici Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, tout ça, on parlait de quoi? On parlait du hadith de... Non. On parlait du hadith de Mu'ad. Non, on parlait du hadith de Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu. Donc Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu, il faisait la salat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Isha, et il allait dans son village, et Beni Salima, et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il guidait les gens qui l'attendaient. Or, une fois, il y a un jeune homme qui rentra. Il rentra dans la prière avec eux. Cet homme s'appelle Sulaym. Il est rentré avec dans la prière et Mu'adh ibn Jabal est en train de les guider. Mais ça lui a paru que la récitation était assez longue. Mu'adh ibn Jabal a lu avec quelque chose de long. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il s'est retiré. Il s'est retiré des rangs et est allé dans un coin de la mosquée et a terminé ça. Donc, il était derrière Mu'adh ibn Jabal dans le rang. Il a vu que Mu'adh a lu long. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré tout seul, sans sortir de la salade. Il s'est retiré comme ça, un peu à droite ou à gauche, vers le coin de la mosquée. Il a terminé seul. Ensuite, il a pris son chameau et il s'en alla, car il avait affaire. Quand Mu'adh eut fini sa prière, on lui raconta l'histoire. Quand il a terminé Mu'adh ibn Jabal la prière, on lui a dit, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je sais pas. On lui a dit, X des gens est sorti des rangs et il a terminé seul. Il n'a pas fait la prière avec toi. Qu'a dit Mu'adh ibn Jabal? Il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, attendez, je le lis ça en arabe, inna hadha bihi la nifaq. Il a dit, celui-là, il a sûrement de l'hypocrisie. Non. Il y a certainement une part d'hypocrisie en lui. Non. Celui-là, il a une part d'hypocrisie. Mais je vais tout de même informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, l'informa de ce que le jeune homme avait fait. Il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé. Et le jeune homme était présent ce jour-là. Quand Mu'adh a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeune homme était présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, naam, il a demandé à celui-là, c'est-à-dire, pourquoi tu as fait cela? Qu'a répondu l'autre? Qu'a répondu? Il lui a dit, ô messager d'Allah, il est resté longtemps avec toi, c'est-à-dire dans l'autre mosquée, pour faire la isha avec toi. Ensuite, il est revenu pour rester longtemps avec nous. Subhanallah al-Azim. Combien de temps on a attendu pour qu'il vienne de chez toi? Et quand il est venu chez nous, subhanallah al-Azim, il y a une prière très longue. Qu'a dit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit à Mu'adh, il lui a dit, Afattanun anta ya Mu'adh, dis-moi Mu'adh, es-tu fauteur de troubles? Tu es un fauteur de troubles? Tu fais des fitnas? Tu veux faire des fitnas? Et il dit ensuite au jeune homme, Kifa tasna'u anta yabna akhi da sallait? Et toi, dis-moi, que fais-tu lorsque tu pries? Comment tu fais lorsque tu pries? Fils de mon frère, fils de mon frère, Ibn Akhi. Il n'est pas son fils de son frère. Les Arabes disent comme ça. Il a dit, dis-moi, comment tu fais la prière? Qu'a répondu le jeune homme? Il a dit, je récite la sourate d'ouverture du Coran. C'est-à-dire, je lis le Fatiha, ensuite je demande à Allah le paradis et je recherche sa protection contre le feu. Je ne connais ni ta dandana. Il parle au prophète, il lui dit, je ne connais ni ta dandana, ni la dandana de Mu'adh. Yani, dandana, c'est quand quelqu'un parle, on n'a pas compris ce qu'il dit, on entend seulement un murmure. Il a dit, je ne comprends ni ton murmure, ni le murmure de Mu'adh ibn Jabal. Ensuite, le prophète a dit, naam, inni wa Mu'adh hawla hatayn. Il a dit, sah, Mu'adh et moi, on se ressemble. Naam, Mu'adh et moi, on se ressemble. Ensuite, le narrateur qui a raconté le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Le jeune homme a dit, mais Mu'adh saura quand les gens arriveront, c'est-à-dire les gens, quand l'ennemi viendra, Mu'adh saura, yani, si je suis sincère ou pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit de moi que j'ai de l'hypocrisie. Il saura. Ce jour-là, on saura. Quand l'ennemi viendra, on saura celui qui est hypocrite, celui qui n'est pas hypocrite. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a rencontré Mu'adh et il lui a dit, Ma fa'ala khasmi wa khasmuk. Ton adversaire et mon adversaire. Qu'a-t-il fait? Il parle yani, de ce bonhomme, hein, dont on a eu l'histoire une fois. Où est-il? Que s'est-il passé? Naam, que s'est-il passé? Est-ce que tu l'as revu une autre fois? Mu'adh ibn Jabal a répondu, ô messager d'Allah, il était sincère envers Allah et je l'ai accusé à tort. Il est mort martyr. Subhanallah, l'azim, Allahu Akbar. Hadith 267, hadith sahih. Naam. Il lui a dit, ya Rasulallah, le jour où j'ai dit de lui, il est munafiq. Et il m'avait dit, lui, il m'avait dit, on saura ce qui est le munafiq. Maintenant, on ne peut pas savoir qui est munafiq. Mais quand vient le djihad, on va voir qui est munafiq. Il a dit, et sah, les ennemis sont venus, il a combattu, il est mort shahid. Je me suis trempé quand j'ai dit de lui munafiq. Donc, qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Beaucoup d'avantages. Le premier, à part que Mouad faisait la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, obligatoire, et faisait guider les gens tout en ayant l'intention de quoi? Du Nafila et les autres derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on l'a dit, on se suffit à ça. Deuxième avantage, que ce n'est pas bien quand on guide les gens de lire beaucoup, de lire des choses longues. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a derrière toi les vieux, il y a derrière toi les malades, il y a derrière toi les gens qui ont affaire. Ce bonhomme, celui-là, qui est sorti de la salat, il y avait le chameau qui l'attendait devant la porte, il travaille avec le chameau, il doit aller ramener de l'eau, etc. Donc, si tu vas toi lire, comme Mouad Ibn Jabal, je crois qu'il disait avec la Baqara, tu vas lire avec la Baqara, personne ne peut rester derrière toi, c'est beaucoup. Il y a des gens, il y a le bus qui les attend. D'autres, il y a le travail qui les attend. D'autres, il y a l'avion qui les attend. D'autres, il y a son père qui l'attend. D'autres, il y a le docteur qui l'attend. D'autres, il y a le téléphone qui l'attend. Il y a des gens qui ont des affaires, surtout dans notre temps. Où c'est, la journée, c'est comme si c'était une heure. La journée, maintenant, c'est comme si c'est une heure. Si tu vas maintenant, je vais faire la prière avec toi, tu vas venir avec Baqara. Quand est-ce que je vais revenir chez moi? Quand est-ce que je vais manger? Quand est-ce que je vais parler avec mes enfants? Quand est-ce que je vais téléphoner? Quand est-ce que je vais écrire? Quand est-ce que je vais lire? C'est impossible. Non. C'est pour ça que Ibn Hajj al-Asqalani a dit, si tu veux lire lent, réciter lent, il faut deux conditions. Première condition, que les gens qui sont derrière toi soient tous d'accord. Tu sais que, voilà, toutes ces personnes qui sont derrière moi, je les connais par les noms et par leurs prénoms. Et ils sont tous d'accord. Vous êtes tous d'accord, hein? Attention, je vais lire sur le Baqara. Nous sommes tous d'accord, vas-y. Personne de nous n'a affaire. On voudrait faire la prière, vas-y. Première condition. Deuxième condition, il a dit, il faut que vous soyez dans un endroit où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas une autre personne qui va se mêler à vous. Car vous êtes tous d'accord, mais il est possible que vienne une autre personne qui ne sait pas, qui ne savait pas que tu allais lire avec une Baqara. Et que si elle savait, elle n'aurait pas accepté. Donc il faut que vous soyez dans une maison, par exemple, et fermée à clé. Personne ne rentre dans cette chambre pour qu'on ne soit pas une fitna pour lui. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres narrations, il a dit à Mouad, pourquoi tu ne lis pas avec Subbih et Shamsi wa Duhaha et des sourates dans ce sens? Pourquoi tu lis avec le Baqara et avec Subbih et avec le Duha et avec le Layl? Des sourates comme ça qui ne sont ni longues ni petites. La petite c'est Qul Huwallahu et la longue c'est le Baqara. Il y a des moyennes. Il y a un autre avantage. Notre avantage, c'est que quand quelqu'un a quelque chose de vraiment yani urgent et que le imam a rallongé beaucoup la salat, tu peux sortir de la salat comme a fait ce compagnon Jalil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Quand je dis il est sorti, il n'a pas quitté la salat, c'est-à-dire tu peux te détacher des rangs. Je suis rentré avec un imam pour faire salat al-Isha et déjà il y a des gens qui sont en train de m'attendre quelque part, et maintenant l'imam a commencé salat al-Isha, il a commencé par une surat et il ne veut pas s'arrêter. À chaque instant je lui dis peut-être il va s'incliner, ça il ne veut pas. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, qu'est-ce que je fais? Je me détache et je termine tout seul ma salat. Ce n'est pas interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette personne. On lui a raconté qu'elle s'est détachée et lui a pas dit pourquoi tu t'es détaché. Au contraire, il a plaint l'imam. Il lui a dit, toi, tu veux faire la fitna. C'est toi qui devais alléger la salat et la raccourcir. Naam. Surtout si on est malade. Si je suis malade, je sens que l'imam ne va pas s'incliner, je le quitte. Je le quitte à droite, à gauche et je termine ma salat tout seul. Je suis malade, je ne peux pas faire une salat longue comme celle-là. Naam. Autre chose, attendez, si je me rappelle, il y a sûrement beaucoup d'autres avantages dans ce hadith. Naam. Quand il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé à cette personne, il lui a dit, dis-moi, quand tu fais toi la salat, dis-moi toi, comment tu... qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je lis le Fatiha et Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me protège, me donne le paradis et me protège de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, pourquoi tu lis seulement le Fatiha? Il lui a dit, je lis le Fatiha, c'est tout. Il lui a pas dit pourquoi. C'est un délit que tu peux de temps en temps lire seulement le Fatiha et tu t'inclines. Surtout si tu es pressé, surtout si il y a des choses. Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse jamais passer devant lui quelque chose de haram sans qu'il montre aux gens. Naam. Ne laisse jamais passer quelque chose de haram sans qu'il montre aux gens. Et à chaque fois, si c'était, ça ne se faisait pas, il lui aurait montré. Il lui aurait dit pourquoi tu as fait ceci. Ou là, pourquoi tu le fais seulement, par exemple, avec le Fatiha, il faut lire avec le Fatiha une autre surat, etc. Mais celui-là, il l'a laissé comme ça. Il ne lui a pas dit, c'est interdit. Non. Autre chose. Non, autre chose. C'est quoi? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé cette personne, qu'est-ce qu'il lui a dit? Kayfa tasna'u ya ibn akhi? Que fais-tu toi lorsque tu pries, fils de mon frère, ibn akhi? S'il lui a dit fils de mon frère, tout le monde sait que ce n'est pas le fils du frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de frère vivant. Donc, comment il lui a dit fils de mon frère? Et s'il lui a dit fils de mon frère, donc, cette personne peut dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon oncle. Car le fils de mon frère, je suis son oncle. Donc, comme moi je peux te dire, comment vas-tu fils de mon frère? Toi tu me dis, comment vas-tu mon oncle? Et si tu peux me dire mon oncle, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas aussi de différence que tu me dises mon père. Pourquoi je dis cela? Parce que certaines personnes qui n'ont pas bien compris le Coran se basent par exemple sur le verset qui dit appelez-les par leur nom de leur père. Appelez-les par leur nom de leur père. Certaines personnes croient que le sens de ce verset, yani que Allah Ta'ala a voulu dire ici que il est même interdit, je dis crois, hein, ce n'est pas vrai, crois qu'il est même interdit que tu dises à quelqu'un mon père, alors qu'il n'est pas ton père. Par exemple, tu es assis dans le bus, il y a un vieux debout devant toi. Par exemple, nous en Algérie, par exemple, on se lève, on dit Ya Baba, Baba, mon père, Ya Baba, je dis, Ya Baba, alors tu crois. Tu dis non, c'est interdit, ce n'est pas ton père. Comment tu l'appelles Ya Baba? C'est pas ton père celui-là. Pourquoi? Tu dis le verset. Allah Ta'ala a dit, appelez-les par leur père. Allah yahdik. Qu'est-ce que ça a à voir? Appelez-les par mon père, par leur nom. J'ai pas dit celui-là, c'est mon père. Yani, par respect, il est comme mon père. Mais le verset que Allah Ta'ala a dit, appelez-les par leur père, ça veut dire, il ne m'est pas possible, moi, je m'appelle, par exemple, Tchelabi, je vais m'appeler avec un autre nom de famille d'une autre personne. Ou là, comme dans le hadith sahih, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque, yani, yidda'i, il a réli abin faqad kafar. Moi, je sais que celui-là, c'est pas mon père, et je dis aux gens, celui-là, c'est mon père, celui-là, et je vais prendre son nom de famille. Ça, c'est haram. Mais quand quelqu'un, par respect, tu lui dis, ammi, mais tu lui dis, abi, par respect, ce n'est pas interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui-là, fils de mon frère. Ça veut dire, l'autre lui dit, ammi. Et comme tu dis ami, tu dis abi aussi, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de dire, de nier ton père et de dire X c'est mon père. Je nie mon père, je ne le reconnais pas. Mais l'autre personne, le voisin, c'est celui-là mon père. A'oudou billah. Ça rentre dans les grands péchés, ou l'ayadou billah. Naam. je crois que je vais m'arrêter ici tellement. Bon, allez, Nazid Hadi. Donc, je vais acheter autre chose. La récitation à voix haute et à voix basse dans les saintes prières et dans les autres. La récitation à voix haute et à voix basse dans les saintes prières et dans les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix haute dans la prière du matin, sobre. Hein? Il y a des prières où on récite à voix haute, des prières où on récite à voix basse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix haute dans la prière du matin, sobre. Je ne parle pas de Fajr, Sunnat al-Fajr. Je parle de Salat sobre, celle qu'on fait en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix haute dans les premières, pardon, dans Salat sobre, dans les deux premières raka'a des prières du Maghreb. Salat al-Maghreb, les deux premières raka'at, il les faisait à voix haute. Et les deux premières raka'at de Salat al-Isha, à voix haute. Et réciter à voix basse dans la prière du Dhuhr, les quatre raka'at à voix basse. Et la prière de Asr, les quatre raka'at à voix basse. Et la troisième raka'a du Maghreb à voix basse, et les deux dernières rak'at de la Isha à voix basse. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvaient savoir quand le prophète alayhi wa sallam récitait doucement de par le mouvement de sa barbe. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est dans le Bukhari Abu Daoud, quand il était devant toi et il était en train de lire dans une prière et toi tu es derrière lui, il est debout. Maintenant tu ne sais pas, il est debout, est-ce qu'il est en train de lire ou là, il n'est pas en train de lire, ou là, il a commencé à lire ou là, il n'a pas commencé. Les compagnons du prophète savaient s'il était en train de lire ou bien il n'était pas en train de lire, il y a à voix basse, car s'il lisait à voix haute il aurait entendu. Mais quand il lisait à voix basse, tout en leur donnant son don, il savait qu'il était en train de lire. Pourquoi ? Il se basait sur quoi ? Il se basait sur sa barbe. Le prophète alayhi sallam avait une barbe touffue, assez large, de façon à ce que quand tu le vois de dos, tu vois sa barbe en train de bouger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est en train de lire. Quand sa barbe s'arrête, ne bouge pas, ça veut dire qu'il s'est tu. Dès qu'il commence à lire, tu vois sa barbe bouger. Regarde, si ton mari a une barbe assez touffue, dis-lui de se mettre de dos, il commence à lire, à seulement bouger ses lèvres, tu vois sa barbe qui commence à bouger. De dos, tu le vois. S'il s'arrête, sa barbe s'arrête de bouger tellement elle était touffue, la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et parfois, comment qu'il savait parfois ? Parfois il savait lorsqu'il laissait entendre une ayah ou plus. Bukhari Muslim. Non. De temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une salat où on ne lit qu'à voix basse, par exemple salat al-dhuhr ou salat al-asr, de temps en temps, qu'est-ce qu'il faisait ? Il lisait un verset ou deux à voix haute. Subhanallah. Non. Et même Abu Bakr Siddiq l'a fait une fois ou deux fois. Donc, de temps en temps, quand tu fais la prière, toi, par exemple, Dhuhr ou l'Asr, il y a des gens qui sont derrière toi, tu peux de temps en temps lire un verset à voix haute, un verset au milieu comme ça, à voix haute. Pourquoi ? Pour deux raisons. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai dit Allahu Akbar, les gens sont derrière moi. On est Salat al-Dhuhr. J'ai commencé moi, j'ai dit A'oudou Billahi Minash Shaitanir Rajeem, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je suis en train de lire à voix basse. Personne ne sait ce que je lis, ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman ar-Rahim. Enfin, j'ai terminé, j'ai dit Amin. Ensuite, je vais par exemple commencer par Amen ar-Rasul. Par exemple, je dis A'oudou Billahi Minash Shaitanir Rajeem, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Je ne dis pas bismillah ar-Rahman ar-Rahim parce que ce n'est pas le début d'une sourate. Je dis Amen ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Et personne ne sait derrière moi qu'est-ce que je suis en train de lire. Ça. Et je suis en train de lire. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Ensuite, jusque-là, personne ne sait ce que je suis en train de lire. Ça. Ensuite, par exemple, je lève la voix et je dis Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Et je me tais et je termine doucement. Rabbana la tu'akhidna, et je termine la suite. Donc, j'ai levé le voix juste pour dire Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Ensuite, j'ai continué à voix basse. Rabbana la tu'hammilna ma la taqtin, etc. C'est quoi la sagesse quand tu fais comme ça? Deux choses. Premièrement, tu as suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, tu as fait vivre et vivifier une chose et une sunna que beaucoup de gens ne connaissent pas et ne savent pas. Non. Tu fais apprendre aux gens de façon à ce qu'ils viennent demander subhanallah, pourquoi tu l'as fait cela? Non. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait de temps en temps. Troisièmement, pour que les gens qui sont derrière toi ne comment qu'on dit, ils mêlent. Yani, ils ne se lassent pas. Des fois, tu lis quelque chose de long, classe, eux, ils sont terminés, ils disent qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi il ne s'est pas incliné. Mais quand tu leur dis, tu lèves la voix, tu dis, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ah, ils disent, il est à Baqara. Ah, classe, il est à la fin, donc, inchallah, il va terminer. Ils savent au moins où tu es. Ça les rassure un peu. Mais là, je dis une chose, j'ouvre une parenthèse. Attention, summa attention et ensuite attention la troisième fois. Attention que tu fasses une chose pareille dans une mosquée où il n'y a pas les talibain. Attention que tu fasses une chose pareille dans une mosquée où il n'y a que les ignorants. Attention que tu fasses une chose pareille dans une mosquée où il n'y a que les vieux, par exemple. Ça risque de te faire une grande fitna. Et tu risques d'être expulsé de la mosquée. Tu risques de devenir, de te mettre l'étiquette que tu es le plus grand ignorant du monde. Tu risques qu'on te mette l'étiquette que tu es un innovateur. Tu risques l'étiquette que tu es un fauteur de troubles. Non, tu fais des troubles dans la mosquée. Tu fais des choses qu'on n'a jamais vues. Tu fais des bid'ahs qu'on n'a jamais entendus. Donc toi, ne fais ces choses que avec les talabat ilm, avec les gens qui ont le ilm, les gens qui, à la rigueur, le maximum, ils viennent te demander. C'est que là, okay, tu as fait ça, on n'a jamais... Ah, non. Allez-y dans Sahih Bukhari, vous voyez si ça n'existe pas ça. C'est dans Sahih Bukhari, vous trouvez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il disait à voix haute. Il disait dans Salat al-Dhuha, un verset, deux versets à voix haute. Non, mais comme je t'ai dit, je t'ai donné le conseil. Attention, il y a une grande différence entre tu connais une sunna et aller l'appliquer. Connaître et appliquer, il y a une grande distance entre les deux. Je connais des choses et des fois je ne les applique pas parce que ce n'est pas leur moment ou ce n'est pas leur endroit. Je ne suis pas au moment où je peux la faire, cette chose. Ou bien je ne suis pas à l'endroit convenable. Je suis dans une mosquée d'innovateurs et de gens vieux, etc., qui ne comprennent pas facilement la sunna. Je vais pas faire la fitna. Naam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait également à voix haute lors de la prière du vendredi et celle des deux fêtes, Eid al-Adha et l'autre Eid, Eid al-Fitr. Il disait à voix haute. De même qu'il lisait à voix haute lors de la pluie de l'istisqa. De même qu'il lisait à voix haute lors de Kousouf, Salat al-Kousouf. Il lisait aussi à voix haute. Naam. Et on va terminer, inchallah, avec ce que je vais dire maintenant. Hein? Les récitations à voix haute et à voix basse dans la prière nocturne. Dans la prière nocturne. Quant à la prière nocturne, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a récité à voix basse et parfois à voix haute. Et il récitait dans sa maison de manière à que ceux qui se trouvaient dans les pièces, les autres pièces, pouvaient l'entendre. Et parfois, il pouvait élever la voix encore plus fort que cela, au point où une personne qui est allongée dans un lit pouvait l'entendre si elle était dehors. Était en dehors de la cour, elle pouvait l'entendre. Tellement des fois, il levait la voix à voix haute. Il a même ordonné à Abu Bakr Siddiq et Omar, radiallahu ta'ala anhuma, une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti une fois, sallallahu alayhi wa sallam, il trouva Abu Bakr Siddiq en train de prier à voix basse. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à marcher. Il a rencontré Omar ibn Khattab en train de prier à voix haute. Bien sûr, c'est nafila, c'est nafila. Un peu plus tard, lorsqu'ils se regroupèrent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: Ya Abu Bakr, ma raftu bika wa anta tusalli tukhfid min sawtik. Ô Abu Bakr, je suis passé à côté de toi et tu priais à voix basse. Il répondit: j'ai laissé le soin à celui que je consultais de m'entendre au messager d'Allah. Yani, je récitais à voix basse, certes, mais Allah subhanahu wa ta'ala, même quand je récite à voix basse, yani, il entend ce que je dis. Pas la peine que je lève ma voix. Ensuite, le prophète a dit: et toi, Omar, je suis passé à côté de toi et tu priais à voix haute. Alors, Omar, radiallahu ta'ala, a répondu: ô messager d'Allah, je combattais. Certes, je lisais à voix haute. Pourquoi? Car je combattais mon envie de dormir. Ah, j'ai peur de dormir. Quand je lis à voix basse, je dors. Alors, je lis un peu fort pour combattre, faire le djihad à mon nefs, pour ne pas dormir. Et en même temps, pour repousser le diable. Alors, le prophète alayhi sallam a dit: Ya Abu Bakr, irfa min sautika shay'a. Wa ya Omar, akhfidh min sautika shay'a. Ô Abu Bakr, élève un peu de ta voix. Yani, tu dis, c'est vraiment très très à voix basse. Élève seulement un peu de ta voix. Et toi, ya Omar, barakallahu fik, rabaisse un peu de ta voix. Rabaisse un peu de ta voix. C'est pour ça que le prophète alayhi sallam disait: Al-jahiru bil Qur'an kal-jahiri bis sadaqa. Le prophète a dit dans un hadith de Abu Dawud, hadith sahih, il a dit: celui qui récite le Coran d'une voix forte, à voix haute, est comme celui qui donne l'aumône ouvertement devant tous les gens. Ils sont en train de le voir et ils donnent l'aumône. Et celui qui récite le Coran doucement et à voix basse est comme celui qui donne l'aumône en secret. Sûrement, vous savez que celui qui donne l'aumône en secret, vous savez tous qu'il est mieux que celui qui donne l'aumône à qui? Comme ça, yani, et les gens en train de voir. Bien sûr, tout cela, quand il y a des gens avec nous, mais quand tu es tout seul dans ta chambre, et tu sais que personne ne peut t'entendre, tu peux lever ta voix même assez fort. Il n'y a personne qui t'entend. Tu n'as pas peur de l'ostentation que les gens vont t'entendre. Mais si tu as peur que si tu lèves ta voix, il y a des gens dans notre pièce qui vont t'entendre, surtout si c'est la prière de la nuit, qui est l'une des grandes preuves de ta sincérité, alors ne brûle pas. Laisse ta sincérité et essaie de faire ta prière à voix basse pour que les gens qui sont dans l'autre pièce, ton mari, ta femme, tes enfants, ta mère, ta grand-mère, pour que personne ne sache que tu es dans la prière. C'est beaucoup meilleur pour toi. Hein, pourquoi? Car tu t'es levé toi pour faire la prière à cause d'Allah. Hein, ce n'est pas à cause d'eux que mes parents sachent ou que pour mes enfants savent que tu es en train de faire la prière. C'est pour cela que je voudrais la cacher au maximum. Pour la cacher au maximum, je vais me lire, yani, qu'à moi-même. Je le fais entendre moi-même. C'est pas la peine que je fasse entendre les enfants qui sont dans l'autre chambre, ni ma mère, ni ma femme. Non. Je m'arrête ici, Inch'Allah, subhanahu wa azzawajal. Je vais mettre une feuille pour dire que je me suis arrêté ici. Non. Je voudrais. La khalli, Inch'Allah, après, je vous dirai ce que j'ai à dire après, Inch'Allah. Non. C'est pour Inch'Allah, ta'ala, dans 10 minutes pour poser les questions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم طعم الله une seconde, je suis en train de chercher, j'ai pas trouvé ici Abdullah, je sais pas où est-ce qu'elle est. On va voir tout ça. Non, pour les sœurs et aux petits salafis, aux mes petits saints. Non, et toi, Tamallah, je choisirai avec toi Rona, n'importe qui. Je vais mettre inchallah le Coran que je mettais tout à l'heure, c'est-à-dire السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت طعم الله في صوت طعم الله في صوت نعم طيب pour me rappeler c'est toi pour me rappeler je t'avais demandé de ça. Tu avais qui des frères? Attends, on va voir, tu avais qui des frères? Tu avais qui des frères? Tamla, rappelle-moi, tu avais qui des frères? Rappelle-moi le nom du frère à qui on envoie des questions. Rappelle-moi, Inch'Allah Ta'ala, le nom du frère. Abu Ahmed, Tayyib. Donc, pour les frères, Inch'Allah Ta'ala, vous envoyez à Tamla et à Abu Ahmed. Pour les sœurs, vous envoyez à Umm Abdillah et vous envoyez à la sœur Qasi Salaf. Qasi Salaf n'a pas de point rouge. C'est aujourd'hui, c'est sa femme qui est là, c'est pas lui. Lui, il n'est pas là, il est au travail. C'est sa sœur qui reçoit, pardon, c'est sa femme, qui est une sœur, qui reçoit, inshallah ta'ala, les questions des sœurs bi'idna azzawj. Tfadl, inshallah ta'amallah, tfadl, inshallah, la première question. Tfadl, il est minuit bi'idna, tfadl, qu'on termine vite. Tfadl, inshallah. Abu Ahmed, tafadl. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, Inch'Allah ta'ala, n'oubliez pas de qu'on ne prend qu'une seule question. N'oubliez pas qu'on prend les questions qui ont un rapport avec le cours. Barakallahu fikoum. Il y a des jours où on fait des questions libres pour tout le monde, Inch'Allah ta'ala. Parce que l'on prie des imams qui ne nous laissent pas le temps de rester sur le Fatiha à la dernière raka. Que devons-nous faire? Devons-nous suivre l'imam? Nous pouvons-nous terminer notre prière tout seul, barakallahu fikum? Non, tu dois suivre l'imam. Derrière un imam, tu n'es pas obligé de terminer s'il descend avec toi. Là, tu n'es pas obligé de terminer s'il a descendu. L'imam, quand il dit Allahu Akbar et il descend, tu coupes toi ce que tu es en train de lire et tu descends avec lui. Et tu n'as pas l'excuse pour sortir de la salate. Non, tu n'as pas l'excuse pour sortir de la salate. Et ça, je l'ai bien expliqué dans le dars passé, en parlant et en donnant beaucoup de délire en ce qui concerne surat al-Fatiha derrière l'imam, inshallah ta'ala. Donc, ce n'est pas une excuse. Tu coupes ta surat al-Fatiha, tu la coupes et tu descends, inshallah ta'ala. Tu suis l'imam. إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ يُؤْتَمَى بِهِ. Ensuite, il a dit, فَإِذَا رَكَعَ, un peu plus loin. Il a dit, فَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعَ. Naam. Autre question, inshallah. Quel est le jugement? Umm Abdillah, je ne vois pas Umm Abdillah, pourquoi tu as changé de ton pseudo de Umm Abdillah, la très connue à Umm Abdillah. De toute façon, en ce qui concerne la prononciation, on dit Umm Abdillah. C'est comme ça qu'on doit prononcer. Mais on t'a beaucoup connu sur le nom de Umm Abdillah. Al-Muhim, quel est le jugement pour une femme si elle fait salat à voix haute à la présence de ses frères mahrim? Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas grave. Quand elle fait devant ses mahrim ou là, son mari ou là, ce n'est pas grave. Mais devant les étrangers, elle doit faire à voix basse. Devant les étrangers, elle doit faire à voix basse. Et de toute façon, quand elle fait la prière à voix haute, il n'y a ni pas au point de faire entendre les gens qui sont un peu loin d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire à voix haute? À voix haute, ça veut dire je m'entends moi-même. Je dis comme ça. Ça veut dire je m'entends. Tandis qu'à voix basse, je bouge seulement mes lèvres. Mais à voix haute, moi je m'entends. C'est pas la peine de faire entendre des gens. Mais s'ils l'entendent, Inch'Allah ta'ala, ce sont des maharim. Il n'y a rien de grave, bi'idhnillahi azza wa jalla. Inch'Allah, autre chose, tafadhal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Peux-tu demander au chef s'il peut réexpliquer comment on peut réciter à voix haute un verset dans la salat qui n'est pas jahriya barakallahu. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est dans le Sahih al-Bukhari, que de temps en temps, dans une prière à voix basse comme le dhuhr, il récitait un verset ou deux à voix haute. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois dans une salat à voix basse comme le dhuhr par exemple, il récitait à voix haute un verset ou deux. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en train de lire, par exemple, à voix basse, tu arrives à un certain verset, tu le lis à voix haute, pour que les gens entendent derrière toi qu'est-ce que tu es en train de lire. Comme ça faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, pas tout le temps. Et j'ai expliqué quand est-ce que de nos jours on pouvait faire cela et quand est-ce qu'on ne le faisait pas, car comme disent les ulama, c'est pas tout ce qu'on sait, on peut le dire. Non, ce n'est pas toutes les choses que tu connais, tu peux les dire à tout le monde. Non, mais il y a certains gens où on ne doit pas dire des choses. Et à certains moments, on ne doit pas aussi dire des choses. Non. Comme a dit Ali radiallahu ta'ala anhu, ma haddista qawman bi, ou Abdullah ibn Mas'ud, ma haddista qawman bi. بكلام لا تبلغ عقولهم إلا كنت فتنة لبعضهم. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه البخاري حدث الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ il a dit, يعني parler aux gens avec les choses qu'ils comprennent. Est-ce que vous voulez qu'on dise que Allah Ta'ala a menti ou son prophète? Et Abdullah ibn Saoud a dit, si tu parles aux gens avec les choses qu'ils comprennent pas, tu seras une fitna pour eux. Non, toi aussi tu vas faire des choses que les gens ne connaissent pas et ne comprennent pas dans une mosquée de gens ignorants ou de vieillards et ça, tu vas être une fitna. C'est pour ça que c'est pas toute chose que tu connais, tu vas la faire avec tout le monde. Tayyib, tafadhal inchallah. Qassi Salah, vous avez parlé de l'obligation de garder le nom du père. La femme mariée doit-elle garder toujours son nom de jeune fille? Naam. La femme mariée en islam ne prend pas le nom de son mari, mais elle prend le nom de son père. Non, elle est toujours le nom de son père. Elle suit toujours son père, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, appelez-les par le nom de leur père. Mais ce n'est pas grave qu'elle dise épouse de X. Non, je suis par exemple Aïcha X, avec mon nom de famille, le nom de mon père. Épouse de X, épouse de monsieur. Et le nom de mon mari. Non. Mais en islam, chacun, qu'il soit homme ou femme, n'a le droit de quitter le nom de son père. Il doit être toujours son nom, le nom de son père toujours collé à lui. Marié ou pas marié, homme ou femme, il a toujours le nom de son père. Et pour prouver qu'elle est la femme de X, elle dit par exemple épouse de X. Non. Tafadhal inshallah ta'ala. Salam alaikum. Est-ce que on a la même récompense, la récompense de la prière en groupe, quand on se défarge du groupe pour terminer la prière? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salat salam ala shraf al-mursalin. Attention, je voudrais bien réexpliquer ce que j'ai dit pour que les gens ne comprennent pas d'une manière fausse et appliquent des choses que je n'ai pas dites. Attention. On ne sort pas facilement d'une prière de groupe. Ce n'est pas pour n'importe quoi, je vais quitter la prière et continuer seul. Je suis avec l'imam en groupe, ensuite je me dis, ah, j'ai oublié d'acheter les bonbons pour les enfants. Là, je sors du groupe. Ah, j'ai oublié d'acheter le journal. Je sors du groupe. Ah, j'ai oublié les chocolats. Je sors du groupe. Ce n'est pas comme ça que j'ai dit, attention. J'ai dit, quand on est vraiment dans le besoin, J'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. J'ai envie de vomir. Il y a quelqu'un qui m'attend. L'avion va partir. Le bus va partir. Il n'y a qu'un seul bus. Des choses vraiment, ça s'appelle le besoin. Naam, l'imam a trop lu. Il a dépassé les limites. Voilà des choses où on sort. Si on se détache du groupe pour un besoin, on a la même chose que si on avait fait avec l'imam. Naam. Pourquoi? Parce que tu es sorti, c'est pas parce que tu suis tes passions, mais tu es sorti avec la permission du législateur. Tu n'es pas sorti parce que tu suis tes passions. Maintenant, l'imam, juste il va lire par exemple Sourate al-Ghashiyah, tu vas dire, oh, c'est beaucoup le Ghashiyah. C'est seulement une page. Tu vas dire, oh, c'est beaucoup une page. Moi j'ai l'habitude, je lis seulement Qul huwallahu ahad. Je me détache du groupe. Attention, ça c'est grave. D'ailleurs, Ibn Hajj al-Asqalani, dans ce hadith du compagnon qui s'est détaché, quoique le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait donné raison, il lui a donné raison pour s'être détaché, il lui a donné raison, quoique cela, qu'a dit Ibn Hajj al-Asqalani, il a dit, et parmi les avantages de ce hadith, que quand quelqu'un ne fait pas la prière avec le groupe, on peut dire de lui hypocrite. Naam. Car Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vois que celui-là, ce n'est qu'un hypocrite, ou quelque chose pareil, ou il a de l'hypocrisie. Donc, pourquoi il a dit ça? Parce que quelqu'un, c'était connu que quelqu'un qui se détache d'un groupe et fait la prière seul, c'est quelque chose de grave. Mais je viens de dire que, Inch'Allah ta'ala, si on se détache à cause d'un besoin ou d'une nécessité, Inch'Allah ta'ala, Allah ta'ala t'écrit, c'est comme si tu avais fait avec le groupe. C'est comme je venais de dire, quelqu'un qui, ikhlas, ne peut plus se retenir pour aller aux toilettes, ou bien pour aller uriner, au point où ça commence à lui faire mal. Et il voit que l'imam ne veut pas arrêter la prière. Dans un cas pareil, Inch'Allah ta'ala, c'est possible, mais ce n'est pas pour une chose futile du groupe. تفضل إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم لا حول ولا قوة إلا بالله. Dans le hadith de Mu'ad, quand il priait la salat nafila devant les gens, est-ce qu'il restait en voix haute? Bien sûr, il récita les deux prières, il récita les deux premières rak'at à voix haute et les deux dernières rak'at à voix basse. Comme se fait Salat al-Isha. Comment se fait Salat al-Isha? Les deux prières, les deux premières rak'at à voix haute, les deux dernières à voix basse. C'est comme ça que Mu'az faisait la nafila et les gens derrière lui priaient l'Isha. Car s'il ne va pas lire à voix haute, ensuite à voix basse, pour les gens, il n'a pas lu Salat al-Isha. Ce n'est pas Salat al-Isha. Non. La nafila, comme a dit l'imam Ibn Hazm, dans son livre Maratib al-Ijma', le Cheikh l'Islam qui a corrigé son livre, c'est tu, n'a pas dit ici, n'a pas dit c'est faux. Qu'a dit Ibn Hazm? Il a dit, bil ijma', par unanimité des ulamas, que tu es libre dans la salat nafila surrogatoire, que tu la fasses à voix haute ou à voix basse. C'est-à-dire, les ulamas sont unanimes. Quand tu fais une prière surrogatoire qui n'est pas obligatoire, tu es libre, que ce soit de nuit ou de jour. Tu veux la faire à voix haute, tu la fais à voix haute. Tu veux la faire à voix basse, tu la fais à voix basse. Mais si tu la fais à voix basse le jour, à voix haute la nuit, c'est mieux, c'est tout. Mais ils sont tous unanimes pour dire que tu es libre. Naam. Et tafadhal inshallah. Bismillah. Tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Normalement, quand quelqu'un est intéressé par la salat, il a beaucoup de questions à poser. Non, normalement, quand quelqu'un est intéressé par une chose, il pose beaucoup de questions. Si la salat, on l'aime vraiment, on doit trouver 1000 questions dans la salat. 1000, 2000. Hein? Quand quelqu'un aime la femme avec laquelle il va se marier, il va demander 1000 questions, il ne va pas s'arrêter. Comment es-tu? Comment est-elle? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Comment qu'elle s'habille? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment qu'elle marche? Comment qu'elle dort? On ne va pas s'arrêter de poser des questions. Parce qu'il aime beaucoup cette personne. Non. Maintenant, toi, tu aimes la salat, tu dois trouver 1000 questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Naam. Salam alaykoum. Peut-on faire des prosternations de distraction si on a négligé une sunna dans la prière, soit par oubli, soit volontairement? Et comment corriger une prière si on a oublié un pilier de celle-ci, mais qu'on s'est rendu compte qu'après la salat, barakallahu fikoum. Naam. La question qui a été posée va venir, Inch'Allah ta'ala, des doros, spécialement un dors, pas un dors, deux ou trois, spécialement comment corriger la salat, spécialement comment corriger une salat. Mais je vous dis très vite, car c'est difficile à expliquer maintenant, ce qu'a posé la question Ali, c'est très difficile. Comment difficile? C'est long, c'est pas difficile, c'est long. Je vous dis très vite que quand on oublie un pilier, ou bien on oublie une sunna, ou bien on oublie quelque chose d'obligatoire, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que premièrement, est-ce qu'on s'est rappelé à l'intérieur de la salat, ou est-ce qu'on s'est rappelé après? Ensuite, quand on s'est rappelé de la chose, est-ce que la chose dont on s'est rappelé, est-ce qu'on est arrivé à la même chose qu'elle, ou on n'est pas arrivé? Par exemple, si j'ai oublié une prosternation, je me suis levé, j'ai fait une seule prosternation, est-ce que maintenant je suis arrivé à l'autre prosternation, je ne suis pas arrivé? Si je ne suis pas arrivé, je redescends, je me prosterne. Mais si je me suis déjà prosterné une autre prosternation et je me suis rappelé, j'annule la première prosternation et je fais de la deuxième prosternation la première prosternation, et quand je termine, je fais un sujoud de distraction après la salat. Mais si j'ai laissé quelque chose d'obligatoire, ça dépend aussi. Est-ce que je me suis levé ou je ne me suis pas levé? Par exemple, j'ai oublié le teshahud. Le teshahud, le premier que je dois faire, c'est obligatoire. Maintenant, je me suis levé. Je l'ai oublié. Est-ce que je me suis rappelé après s'être levé ou là, avant de me lever? Tout en me levant, je me suis rappelé. Si je me rappelle tout en me levant, je dois revenir à la salat, et je fais un sujoud après la salat, sujoud distraction après la salat. Mais si tout en me relevant, mais si maintenant, khlas, je me suis relevé, c'est trop tard. Je me suis relevé, j'ai pas fait le teshahud. Je peux pas me rasseoir. Mais qu'est-ce que je fais? Mais avant de dire salam alaykoum, je fais quoi? Je m'assois et je fais le teshahud. Ensuite, quand je doute sur une chose, est-ce que j'ai fait 3, est-ce que j'ai fait 4? Ça se divise aussi en 2. Est-ce que je doute à 50% ou bien à plus? Si c'est à 50%, je me base sur le moins et je fais un sujoud à l'intérieur. Si maintenant c'est plus de 50%, 60-70, je me base, c'est pas sur le moins, sur la chose dont j'ai douté, et je fais un sujoud après la salat. Tout ça, inshallah ta'ala, ça viendra avec les détails. De toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que 5 fois la prosternation. Il l'a fait 5 fois. Une fois, il a oublié le teshahud, il a fait les deux soujouds à l'intérieur de la salat. Une fois, il a fait le dhuhr de 2 rak'at. Et certains ont dit que c'était le asr dans la salat, la très connue de Dhul Yadayn. Il a ajouté les deux prières, les deux qui manquaient, et il s'est prosterné après. Et une fois, il a fait une salat de 4 prières, il a fait 3. Il a fait 3 au lieu de 4. Il est sorti dans la rue, Talha radiallahu ta'ala nous l'a appelé, il est rentré dans la mosquée une deuxième fois, il a dit à Bilal, Aqim Salat, et il a ajouté les deux qui manquaient, et il s'est prosterné après. Et une fois la même chose, une prière de 4, il l'a fait 3 fois. Il a ajouté les deux qui manquaient, et il est rentré à la maison. Et une fois, il a fait Salat al-Dhuhr 5 fois. Et il s'est prosterné 2 fois après la Salat. Inch'Allah ta'ala, ça viendra, on parlera avec vous plus de détails de Ibn al-Azawajal dans son moment opportun de Ibn al-Azawajal. Tfadlan, Inch'Allah, prochaine question. Le plus grave, c'est quoi? Vous savez ce que c'est le plus grave? Le plus grave, c'est beaucoup de choses. Ce sont des choses obligatoires que les gens ne savent pas. Voilà le plus grave. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très simple. Quand on s'assoit entre les deux prosternations, Maintenant, je me suis prosterné, la première prosternation. Je dis Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdihi. C'est obligatoire une fois. J'ajoute Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdihi deux fois. Trois fois, c'est mieux. Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Si tu dis 5, 6, 7, c'est encore mieux. Une moyenne. Disons trois fois. Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Maintenant, je m'assois un peu pour refaire la deuxième prosternation. Ça, chaque raka'a a deux prosternations. Maintenant, quand je me suis assis pour faire la deuxième prosternation. Quand je me suis assis, plusieurs gens ne savent pas que tu es obligé de dire quelque chose ici. Et que si tu ne dis pas cette chose ici, tu dois faire la prière de la distraction. Tu dois faire un sujoud. Parce que tu as quoi ? Tu n'as pas fait quelque chose d'obligatoire. C'est quoi la chose obligatoire ? C'est de dire quelque chose quand tu t'assois entre les deux prosternations. C'est de dire quoi ? C'est de dire par exemple Rabbi khfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wahdini. Ou bien au moins Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Alors que beaucoup de gens ne disent rien. Ils se prosternent, ils disent Subhanabil ala, Subhanabil ala, Subhanabil ala, Allahu Akbar. Ensuite ils s'assoient. Allahu Akbar, Subhanabil ala, Subhanabil. Ils ne disent rien entre les deux prosternations. Alors regardez, il n'a pas dit quelque chose d'obligatoire. Non. Et, comme a dit Cheikh Al-Albani, il est aussi obligatoire à chaque personne qui termine sa salat de dire un dua contre quatre choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min fitnat, et dans une autre narration, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Ces quatre choses, tu es obligé de les dire avant de dire salam alaykum. Et beaucoup de gens ne savent pas. Et beaucoup de gens ne disent pas cela. Ils terminent, innaka hamidul majid, assalamu alaykum. Et ils ne disent pas, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, min adhab al-qabr, min fitnat al-mahya wal-mamat, min fitnat al-masih ad-dajjal. Vous savez, beaucoup de choses on ne les connaît pas dans la salat. Et on croit qu'on connaît. Et ma'al asif, ce sont des choses obligatoires qu'on ne dit pas. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Allahu al-musta'an. Assalamu alaykum. Si on prédit nafila dans le dernier tiers de la nuit pour invoquer Allah, y a-t-il une doua spécifique avec laquelle Allah exauce nos invocations? Barakallahu fikum. Naam. Premièrement, vous les gens de France, j'ai remarqué quand vous dites doua, vous employez le féminin, vous dites une doua. Je l'ai vu chez vous tous et toutes, vous dites une doua. Moi, quand je dis un doua. Bon, bien sûr, je ne vous corrige pas. Vous avez l'habitude de dire comme ça, dites comme ça. Pourquoi moi je dis un doua? Parce que je me base sur l'arabe. En arabe, le mot doua est masculin. Un doua, c'est pas féminin. Un doua. C'est pour ça, quand je l'ai traduit en français, je dis un doua. Elle-même, ce n'est pas grave. Maintenant, il n'y a pas de doua spécifique. Il n'y a pas de doua spécifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple, il t'aime sous l'ism al-A'zam, qui sort al-Baqara. Wa Ali Imran et sorte par exemple, il est bien avant de faire un doua, tu commences par dire Alhamdulillah, tu remercies Allah Ta'ala, ensuite tu fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète alayhi wa sallam a dit quiconque fait un doua yani, sans qu'il ne fasse la prière sur moi, il a dit quelque chose comme ça, en ce sens que ce n'était pas accepté, en ce sens. Car la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le tampon du doua. C'est comme tu envoies toi une lettre, il n'y a pas de timbre. Ou bien il y a un timbre, il n'y a pas de tampon. Elle va revenir. Ensuite, tu cherches, par exemple, Ismallah al-A'zam. Ismallah al-A'zam, c'est d'après ce hadith qui se trouve dans le Baqara, Ali Imran et Taha, c'est quoi? Al-Hayyul Qiyum. Car Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqara, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qiyyum. Il a dit dans Ali Imran, la ilaha. Bon, dans Ali Imran, j'ai oublié comment que il est arrivé, il a dit al-hayyu al-qiyyum. Attends, subhanallah, nizal al-kitab bil-haq. Attendez, je commence Ali Imran. Alif lam mim. الله لا نعم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. Donc vous voyez الحي القيوم. Et dans Taha, وعانت الوجوه للحي القيوم. Donc le Hayy al-Qayyum, c'est l'ism Allah l'A'zam, c'est le nom d'Allah le sublime, avec lequel si on demande à Allah Ta'ala une chose, il nous la donne. Donc choisis par exemple toi ce nom. Tu es en pleine nuit, en plein tiers, dernier tiers, mashallah, où Allah subhanahu wa ta'ala descend. Ensuite, tu as remercié Allah, tu as fait la salat sur son prophète et tu as employé ism Allah al-A'zam. Tu dis, As'aluka ya Allah, bi annaka anta al-hayy al-qayyum. Non, al-hayy al-qayyum, que tu me donnes ceci ou là, que tu me guérisses, que ceci, que cela. N'oublie pas de demander Allah subhanahu wa ta'ala par son nom, le sublime. C'est pour ça que Ayat al-Kursi, c'est la meilleure, c'est le meilleur verset du Coran. Pourquoi? Parce qu'il comprend le nom Al-Hayy al-Qayyum, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-A'zam. Mais il n'y a pas un doua, comme j'ai dit, spécifique. Tfadhal akh al-Karim. Assalamu alaykum. Durant les prières de Maghrib, Isha et le Sobh, est-il obligatoire de lire à voix haute ou est-ce une sunnah? Quel est le délit? Barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, c'est à dire faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. C'est pour ça que Ibn Hajr al-Asqalani a dit que les salafs n'avaient pas dans l'habitude de demander est-ce que cette chose est-elle obligatoire ou sunnah quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait de faire une chose, et a dit ils n'avaient pas l'habitude de demander est-ce que cette chose est haram ou seulement makruh quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demandait de s'éloigner d'une chose. Non. Mais les ulama, les fuqaha ont été obligés de classifier yani wajib, mandoub, mubah, makruh, haram, juste pour savoir et apprendre aux gens que si tu fais cette chose tu auras des péchés, tu fais cette chose tu n'auras pas de péché. Tu fais cette chose, tu auras des récompenses. Tu fais cette chose, tu n'auras pas de récompenses. Et comme ça. Non. Sinon, les salafs ne demandaient pas. Donc nous, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais de la vie, on ne l'a vu faire salat al-Isha, par exemple, à voix basse. Ni salat al-Subh, à voix haute. Ni salat al-Dhuhr, à voix haute. Ni salat al-Asr, à voix haute, dans sa vie. Ni salat al-Maghrib, à voix basse. Et il a dit, faites la prière comme je l'ai faite. Faites la prière comme je... Donc moi je suis obligé de faire la prière subh à voix haute, et de faire l'isha à voix haute, et de faire le maghrib à voix haute, et de faire les deux autres à voix basse. Mais c'est dans la sunna, de temps en temps, de lire un verset ou deux, dont par exemple salat al-dhuhr ou salat al-asr à voix haute. Naam. Comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais je ne dois pas m'éloigner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis sunna, ça veut dire la sunna, ça veut dire c'est la façon du prophète alayhi wa sallam. Et sa sunna peut être obligatoire, car sa façon de te montrer une chose, elle peut être obligatoire. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Fadlan inshallah, autre question. Tayyib, j'ouvre une parenthèse ici pour ne pas oublier. J'ouvre une parenthèse, je profite puisque vous êtes assez nombreux. Je profite que vous êtes assez nombreux pour ne pas oublier, Inch'Allah Ta'ala. Il est possible, je dis il est possible, que Inch'Allah Ta'ala, lundi prochain, que je sois absent pour un mois, à partir de lundi prochain. Il est possible, Inch'Allah Ta'ala, je ne suis pas très sûr, mais il est très possible, disons même très possible, Inch'Allah Ta'ala, qu'à partir de lundi prochain, je serai absent un mois. C'est-à-dire que le prochain dars, ce sera Inch'Allah Ta'ala samedi prochain. Disons, le prochain dars sera vendredi. C'est mieux. Vendredi, spécialement pour les questions-réponses. Vendredi, Inch'Allah, on se rencontre la nuit, après les repères de la sunna, pour faire seulement questions-réponses. Ensuite, samedi, Inch'Allah Ta'ala, Aqida. Chaque samedi, on a Aqida. Ensuite, dimanche, lundi, il n'y a pas cours, jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'au 14 avril. C'est-à-dire un mois. Jusqu'au 14 avril, je vous dis comme ça parce que il est possible que quelqu'un de vous s'absente, ensuite il ne m'a pas entendu dire ceci, ensuite il ne va pas trouver la salle ouverte pendant un mois. Il va s'étonner, il va dire qu'est-ce qui s'est passé. Inch'Allah, vous êtes au courant, tout le monde dira à l'autre, et je poserai Inch'Allah ça dans le blog, dans mon blog où c'est écrit message, Je dirai aussi le jour, Inch'Allah Ta'ala, où je recommencerai. Inch'Allah Ta'ala. Naam. Ma mère ne prie pas n'a pas prié ton jeûne. Aujourd'hui, elle rattrape ses prières après chaque prière de rak'at, après le fajr, 4 rak'at, après d'or, 3 après l'asr, l'asr 3, après le maghrib. J'ai pas compris comment elle rattrape. 2 rak'at après le fajr, 4 rak'at après le dhuhr, na'am. Et l'asr, na'am. 3 après le maghrib, 4 après l'isha. Elle a entendu dire que faire ses prières après le fajr et l'asr ne sont pas jayzin. Que doit-elle faire? Est-ce nécessaire pour elle de les rattraper? Pourriez-vous parler en arabe car elle ne comprend pas le français? Barakallahu fik. Naam. Elle me demande de parler en arabe. En arabe littéraire ou l'arabe dialectique? Elle ne m'a pas dit. Elle ne m'a pas dit. Si je parlais en arabe, je devais parler en arabe littéraire ou là, l'arabe algérien. J'attends, inshallah ta'ala, qu'elle me le dise. Ça m'étonnerait que ça soit l'arabe littéraire. Allahu a'lam. Dialectique, naam. Je dis bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Fima yakhuss wahda ki tkun taqdi fi salat, tkun taqdi fi salat li fatatha, salat li ma sallatahash bikri. Ma yahmch hadi ta' ba'd al-fajr wala ba'd al-'asr, ma yahmch. تقضي في كل وقت علاه خاطر هذيك الصلاه اللي يقولوا ما تصلاش بعد الفجر يقول لك ما تصلاش بعد العصر هذيك على النافله على النافله ماشي على صلاه الفرض انت راكي تقضي في الصلاه تاع الفرض والصلاه تاع الفرض ما عندهاش وقت ما عندهاش وقت لازم تتصلى في كل وقت يعني ما نقولوش باللي دوك ما كاينش الشمس ولا راهي كاينه الشمس هذه ما عندهاش دخل هذيك فقط في النافله اما في الفرض إن شاء الله تعالى تصليها في كل وقت في كل وقت والشمس ما عندهاش دخل هذه واحدة ثانيا فقط حبيت نقول لك وانت حرة على أي حال إذا راكي قادرة تصلي راكي تغرمي في اللي فاتو وقدرتي ربي سبحانه وتعالى يوفقك صح حبيت نقول لك بلي كان بزاف علماء اللي قالوا بلي ماشي شرط عليها تقضي ماشي شرط عليها تروح تقضي الصلاة اللي ما صليتش بكري قالوا بصح إذا حبت واش تدير إذا حبت ما تقضيش تكثر من نوافل في عرض تقضي صلاة اللي فاتت تروح واش دير تصلي النافلة بزاف كيفاش تصلي النافلة بزاف تصلي مثلا 12 ركعة كل يوم تصلي زوج ركعات تاع الفجر اللي نصلوهم تصلي ربعة نافلة قبل الظهر زوج نافلة بعد الظهر زوج نافلة بعد العشاء زوج نافلة بعد العشاء عفوا زوج نافلة بعد المغرب زوج نافلة بعد العشاء قالوا له قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول للعبد يقول له أعطيني شوف الصلاة اللي صليتها أنت بكري قالوا لما يعطيه الصلاة إذا صاب الله سبحانه وتعالى وجد باللي الصلاة كانت تخص مخصوصة ما صلاش مثلا إنسان 10 سنين ولا الله سبحانه وتعالى وش يقول يقول الملائكة شوفوا عبدي هذا إذا كان يصلي النافلة شفت وش يقول ما يقول شوفوا عبدي هذا إذا خلف الصلاة يقول شوفوا عبدي إذا كان يصلي النافلة إذا صابوا عنده النافلة يقول الحمد لله الحمد لله لي صليت النافلة نعم ثم الله سبحانه وتعالى يطلب منك تصلي صلاة الفرض طلب منك تصليها بكري في وقتها دوك ياكي تصلي فيها ماشي في وقتها طلب منك تكون في وقتها عندها 20 سنة ولا 30 سنة ماشي يضلك وطلب منك تكون بخشوع صليها بخشوع دوك الواحد كيكون يخلف ما عنده حتى خشوع يحوس يجري باش يكمل يصليها يقولك باش نتهنى منها راهي عليا دين راهي دين على ظهري حاب نتهنى منها نكملها ها هو الفرق بين اللي يغرم الصلاة وبين اللي يصلي النافلة ام بصح انت ان شاء الله تعالى حرة وشوفي اذا قادرة وراكي قدرتي بلي تدخل في خلفي ولا شفتي بلي تعبتي وجاتك صعيبة ابدي تصلي النافلة وما زيديش تغرمي صلاة تاع بكري وانت حرة والله سبحانه وتعالى أعلم اتفضل ان شاء الله سؤال آخر ولا ان شاء الله ما فهمتيش عاودي طرحي علي السؤال نعم اذا ان شاء الله سي انا با كومبري كان بوز انكور لا كيسيون ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله. Dans le hadith de Mu'az, quand le prophète عليه الصلاة والسلام interroge le jeune homme de Bani Salama, celui-ci a répondu qu'il récite la Fatiha et demande le pardon pour des fautes de l'enfer. Et à la suite de cela, le jour dit, je ne connais ni Fadim Del, Yadim Mouaï. Que c'est les expressions. Je ne connais ni Fadim Del, Yadim Mouaï. Voilà, je l'offre. Voilà, je fais. Amin. Non, je ne connais ni Fadim Del, ni Fadim Del Mouaï. Moi, j'ai compris, pour Allah subhanahu wa ta'ala, A'lam, moi, j'ai compris que, yani, il voulait dire que, yani, moi, je me suffis à cela. Moi, je me suffis à cela. Moi, je suis une personne simple. Je ne connais que le Fatiha. Je m'arrête à le Fatiha et ça me suffit. Comme a dit une autre personne au prophète, il lui a dit, moi, sainte prière, je n'ajoute pas. Sainte prière, je ne veux pas plus. Ça me suffit. Il a dit, yani, aflaha in sadaq. C'est la même chose. Il a dit, je ne connais ni ce que tu dis toi, ni ce que dit Mouaz. Moi, je sais que je lis le Fatiha et je me suffis. Je crois Allah Ta'ala alam, c'est ce qu'il a voulu dire. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mais je n'oublierai pas, inshallah ta'ala, de voir dans le sens. Peut-être ça a un autre sens. Peut-être ça a un autre sens. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. D'ailleurs, je ne vais pas tarder. Je vais te voir maintenant, inshallah ta'ala. Dandana. Naam. Je vais te voir, inshallah ta'ala, maintenant. Alors que l'on est en train de faire le dars bi'idnillahi azza wa jalla, je vais te répondre inshallah ta'ala. Naam. Dandanatak.
طيب. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ken Saoud? Al-ikhwa Ken Saoud? Est-ce que vous m'entendez? Je pense que le chir doit avoir un problème de connexion ou aller faire quelque chose, donc je vous demande de patienter, inshallah, qu'on puisse le joindre. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il sort. Tam. Ça, j'ai trouvé des difficultés pour me connecter. J'ai trouvé des difficultés pour me connecter. Malish. Je disais, on parlait de quoi? Naam. J'ai pas voulu te répondre parce que quand tu m'as téléphoné, je me suis connecté. J'ai dit donc c'est pas la peine de lui parler. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Où est-ce qu'on était? Rappelle-moi où est-ce qu'on était, Osmak. Naam, mais il y avait quelque chose. Je parlais de quelque chose avant cela. Une seconde là. Une seconde. Non, on parlait de Deidana, Dandana, Afoun, Dandana, ça. Celui qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, la arifu Dandana, ça, ou la Dandana Mouad. Ça veut dire, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas beaucoup le Coran. Il a dit, moi je connais le Fatiha. Je m'arrête à Al-Fatiha et je demande le paradis et Allah Ta'ala qu'il m'éloigne de l'enfer. Mais je ne connais pas ton murmure. Ça veut dire après Al-Fatiha, tu murmures des choses que je ne comprends pas. Tu dis des choses que je ne comprends pas. Ni toi, ni Mouaz. Ça veut dire moi, je connais seulement Al-Fatiha. Il entend dire des choses. Quand tu entends quelque chose, tu ne la comprends pas, ça s'appelle un murmure. Il a dit, je ne comprends pas ton murmure. Ni le murmure de Mouaz. Le prophète, il a dit justement, il a dit moi je me suffis à lire seulement le Fatiha et je demande à Allah de m'entrer au paradis, de m'éloigner de l'enfer. Le prophète a répondu justement, moi et Mouad, c'est autour de ça qu'on tourne. C'est à dire que nous aussi on demande à Allah Ta'ala de nous rentrer au paradis et de nous éloigner de l'enfer. Naam, c'est pour ça qu'on lit aussi le Coran. Naam. Salam alaikum, mon fils a 7 ans, il ne connaît pas les deux tashahoud. Mais il veut me guider pendant la prière, moi je le laisse, barakallahu fikum. Il ne peut pas, naam, il ne peut pas te guider dans l'obligatoire. Laisse-le te guider dans une prière surobligatoire, nafila. Car il ne connaît pas ce qu'il dit dans le tashahoud. Et le tashahoud, c'est un rokn. C'est un rokn, le fait de s'asseoir, le deuxième, c'est un rokn. Le premier, il est obligé, le deuxième, c'est un rokn. Naam. Donc, il ne peut pas te guider s'il ne sait pas ce qu'il doit dire. Apprends-lui qu'est-ce qu'il dit dans le tashahhud. Ensuite, il peut te guider, inshallah ta'ala. Apprends-lui qu'il apprenne d'abord le tashahhud, inshallah ta'ala. Naam. Je rappelle que, inshallah ta'ala, on a rendez-vous vendredi prochain pour les questions-réponses. Et que samedi, inshallah ta'ala, on fera un dars de aqidah. Et que peut-être, inshallah ta'ala, ce sera le dernier pour une absence de un mois, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. C'est quoi, inshallah, le prochain soir? Inshallah. Ta'amallah, si. Prochain, naam. S'il n'y a plus rien, dis-moi, inshallah ta'ala. S'il n'y a plus de questions, dis-moi. Ta'amallah, moi demain, inshallah ta'ala, je ne travaille pas. Si vous voulez, on ajoute le dernier quart d'heure, puisqu'il est une heure moins quart. S'il y a des questions, on ajoute. S'il n'y a pas, on arrête. Naam. Ajoute le dernier quart d'heure, inshallah ta'ala. Le dernier quart d'heure de Inna Zawna. Je n'arrive pas à prier les nuits et les salats surrogatoires. Auriez-vous des conseils à me donner pour m'aider à y parvenir? Naam. Naam, je n'arrive pas à prier les nuits surrogatoires. La nuit et les salats surrogatoires. Auriez-vous des conseils à me donner pour m'aider à parvenir? Naam. Le premier conseil, c'est de dormir tôt. Subhanallah al-Azim. Quelqu'un qui veille jusqu'à 1h du matin, ensuite il va dire je vais me lever pour faire 2 ou 4 ou 6 prières la nuit. C'est très difficile pour lui. Ce n'est pas une chose facile. Non. Il faut qu'il fasse comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dormait directement après l'Isha. Imagine, tu dors à 21h. Imagine, mashallah, 3h du matin, c'est loin. Yani, à 3h du matin, déjà tu n'as plus sommeil. Même si tu voulais dormir, peut-être tu n'as plus sommeil. Donc, il y a des premièrement. Deuxièmement, pour pouvoir se réveiller, et faire la salat, deuxièmement, c'est très important, il faut être motivé. Il faut avoir un cœur motivé. Quand tu as un cœur motivé, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime le ravir, et qui connaît quels sont les bienfaits de la salat de la nuit, sûrement que ça l'aidera beaucoup à se lever. Cette chose l'aidera beaucoup à se lever. Des gens qui sont très séra, ça veut dire des gens qui sont véridiques, ont rapporté que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, jamais ne lui passait une nuit sans qu'il fasse la prière de la nuit. Quelqu'un était avec lui, a dit, une fois, on a fait un voyage. On est arrivé en pleine nuit dans un endroit au désert. On a dit, on arrête ici, on va dormir. Il a dit, on était arrivé, yani, comme on dit, à plat, fatigué, éreinté. On a dit, yani, presque, on dormait debout. Il a dit, dès qu'on a posé des tapis là, on s'est endormi. La cache, on n'a même pas pu tenir 5 ou 10 minutes. Quelqu'un d'eux a dit, moi, yani, je ne sais pas ce qui m'a retenu, peut-être il est allé aux toilettes ou là. Il a dit, et je passe, et je vois Cheikh Ibn Baz en train de faire la prière la nuit. Subhanallah. Pourquoi lui il peut, moi je ne peux pas. Lui il est motivé. Il a quelque chose dans le cœur qui le pousse. Il connaît des choses que pas. Il se fait, il pense à des choses que je pense pas, et comme ça. Non. Et quand quelqu'un n'est pas motivé ou là, ça ne lui dit rien. Et quand quelqu'un, mashallah, il est motivé, il a un but pour lequel il fait la salat, alors il se lève, joyeux, il est tout joyeux de faire la salat. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Non. Qu'il nous aide, car nos cœurs sont vraiment, loin du vrai amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide, qu'il soit avec nous. Doit-on obligatoirement terminer une sourate dans une même raka avant de commencer une deuxième sourate? Non, ce n'est pas obligé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il commençait une raka il a terminé dans une deuxième rak'at. Et des fois, il a commencé et l'a laissé et allé dans l'autre rak'at, aller vers une autre surat. Comme des fois, il disait dans la première rak'at, قُلْ آمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ قُلُوا آمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا. Et dans la deuxième, il lisait قُلْ يَا أَهْلَ كِتَابَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Là, regardez, dans la première, il a lu de l'Baqara et de l'autre, il a lu une autre surah et il n'a pas terminé ni celle de la Baqara ni l'autre, celle de Ali Imran. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل إن شاء الله. Il reste 10 minutes. Fadlan, inshallah ta'ala. Na'am, ta'am Allah. Quand je reviendrai, inshallah, après un mois, rappelle-moi pour donner aux frères et sœurs le numéro de téléphone de la maison et l'heure. Les horaires pendant lesquels ils peuvent me téléphoner. Je leur réponds, inshallah ta'ala. Comme ça, c'est mieux que qu'ils m'écrivent. Car j'ai beaucoup, beaucoup de courriers. Je suis même dépassé. Au point que je ne pourrais pas répondre à beaucoup. Là, je suis tellement dépassé que beaucoup de lettres, mal SF, je m'excuse, mais je ne peux pas répondre. Il y en a tellement, là. Et il y a d'autres que je suis obligé auxquels je dois répondre, là. Mais profitez, Inch'Allah, vendredi, surtout pour celles qui m'ont écrit au courrier, profitez pour me poser la question comme ça, par écrit. Je réponds comme ça directement. C'est bien pour vous et pour moi, Inch'Allah. Est-ce que je peux faire ma prière à l'heure sans l'autorisation de mon patron et désobéir pour Allah car il ne laisserait pas la faire barclof? Naam, tu peux faire la prière à l'heure sans l'autorisation de ton patron, premièrement, et deuxièmement, même s'il te dit ne la fais pas, lui, ça, tais-toi, laisse-le parler et tu la fais à l'heure. Naam, quand il te dit écoute, il ne faut pas faire la salat, il n'y a pas de salat ici, tu te tais. Et quand tu sais qu'il n'est pas là ou là qu'il est loin ou là, tu fais la salat à l'heure. Non, il ne faut jamais désobéir à quelqu'un désobéir à Allah en obéissant à quelqu'un. Jamais de la vie. Non. Tfaddal, inshallah, c'est quoi la prochaine question? Je vous la pose s'il y a du temps, alhamdoulilah, c'est mon frère, inshallah. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir si la femme enceinte qui est en plein travail, en sachant que le travail peut durer 24 heures ou plus lors d'un accouchement, si elle doit rattraper ses salats ou non. Si la poche des os ne s'est pas encore percée, entre autres. Non. J'ai pas bien compris la question. Premièrement, deuxièmement, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire la poche des os. La poche des os, c'est la première fois que j'entends dans ma vie cette phrase. Non. La question, j'aimerais savoir si une femme enceinte qui est en plein travail, sachant que le travail peut durer 24 heures ou plus, lors d'un accouchement, si elle doit rattraper ses salates. Comment cela? Donc je comprends que cette femme qui est enceinte ne fait pas la prière à l'heure. Car la question est mal formulée. Je comprends et je réponds d'après ce que je comprends. Je réponds, Inch'Allah, d'après ce que je comprends. J'ai compris qu'il y a une femme enceinte qui travaille 24 heures, donc ne fait pas la prière à l'heure. Elle a dit, est-ce que lors d'un accouchement, elle doit rattraper salat ou non, si la poche des os ne s'est pas encore percée? D'ailleurs, quiconque, vous devez bien savoir que quiconque laisse une salat et ne la fait pas sans excuse, que ce n'est pas la peine de la refaire après. Toute personne qui ne fait pas sa salat sans excuse jusqu'à ce que son heure se termine, c'est-à-dire par exemple salat al-asr, je viens d'entendre le adhan de l'asr. Entre l'asr et le maghrib, par exemple, il y a 3 heures. Par exemple, pendant ces 3 heures, je ne vais pas faire la prière de l'asr. Ensuite, quand c'est le moment du maghrib ou la l'isha, je vais dire attends, je vais faire le asr. Ici, ce n'est pas la peine de faire le asr pour deux raisons. Car premièrement, tu es en train de te fatiguer pour rien, et deuxièmement, car elle ne va pas être acceptée. Car Allah Ta'ala a donné des moments pour la salat. Tu ne peux pas faire la salat quand tu veux toi, et tu la fais quand il veut lui, subhanahu wa ta'ala. Il a donné des moments où elle commence, où elle finit. C'est là que tu dois faire la salat. Quand quelqu'un est excusé, il est excusé. Quand quelqu'un dormait, il ne s'est pas réveillé. Quelqu'un a oublié sa salat. Quelqu'un est devenu fou. Quelqu'un, là, il est excusé. Mais quelqu'un qui a sa conscience avec lui, il est conscient de ce qui se passe, celui-là, il doit la faire n'importe comment. Même avec ses yeux, même en étant debout, même assis. Il ne doit seulement pas la laisser. Même grouper Dhuhr ma'al Asr, mais je ne la laisse pas. Je ne la laisse pas la salat partir comme ça. Non. Imaginez dans la guerre sainte, tu es en plein jihad, tu n'as pas le droit de dire je suis dans la guerre sainte, je vais mourir shahid, masha'Allah, j'ai cette faveur que personne n'a, donc c'est pas la peine de faire la salat. Je suis dans le jihad, je ne peux pas la faire. Dans le jihad, tu fais. Avec les yeux, avec la tête, l'ishara, et tu ne laisses pas la salat partir. Non, même dans le djihad, tu dois faire la salat. Ça s'appelle salat al-khawf, la salat de la crainte. Non, tu dois la faire, même au moins une raka. Au moins, si ce n'est pas quatre, c'est une, comme ont dit certains ulama. Beaucoup ont dit au moins deux, mais certains ont dit au moins une. Mais il faut faire la salat. Non. La founéchir, j'ai pas compris, le travail c'est pendant l'accouchement, ça peut durer jusqu'à 24 heures, qu'il y ait découlement avant la sortie du bébé, j'espère que c'est clair. Afounéchir, mais le chir a pas compris, le travail c'est pendant l'accouchement. Oui, le travail c'est pendant l'accouchement, j'ai dit je n'ai pas compris. Le travail, c'est pendant l'accouchement. Qu'est-ce qui travaille pendant l'accouchement? J'ai pas compris. Hein. Pardon, j'ai pas compris cette question. Peut-être pour comprendre, je vais relire plus haut. Non, pour comprendre, je vais relire plus haut. J'aimerais savoir si une femme enceinte qui est en plein travail. Et elle dit le travail c'est pendant l'accouchement. Une femme qui est enceinte pendant plein travail. Travail pendant l'accouchement. Ça peut durer 24 heures. Ah, quelque chose que je ne comprends pas. Je ne peux pas. On n'a pas eu de perte, j'ai compris. Mais travail pendant l'accouchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment une femme travaille pendant l'accouchement. Travaille pendant la grossesse. Elle est en grossesse, elle travaille. Non. On dit qu'une femme qui accouche est en plein travail. Elle dit c'est nouveau pour moi. Hein. Il y a une autre qui dit elle travaille, ça veut dire elle est en plein accouchement. C'est ça le travail. Non. Donc supposons que c'est comme a dit la autre. Elle a dit son travail c'est accoucher. Quand une femme accouche, on dit qu'elle est en travail. Ça. Cette femme qui est en train d'accoucher, est-ce qu'elle peut faire la prière? Naam. S'il y a rien qui coule de la femme, elle fait la prière. Naam. Une femme, tant qu'elle n'a pas encore eu les contractions, tant qu'une femme qui est enceinte, et n'a pas commencé à avoir des contractions avec le sang qui commence à couler sans s'arrêter. Tant qu'elle n'a pas ces choses, elle doit faire la prière. Durant les contractions, s'il n'y a pas de sang qui coule, elle fait la prière. Naam, elle fait la prière tant qu'il n'y a rien qui sort, qui coule. Ensuite, si une chose a coulé et s'est arrêtée, elle essuie seulement la chose qui a coulé, elle fait les wudu. Elle fait les wudu, elle fait la salat. Mais si le sang qui a commencé à couler ne s'est pas arrêté jusqu'à l'accouchement, khlas. Elle est en période de logis, c'est pas la peine qu'elle rattrape la salat. Voilà la règle, et on va terminer avec celle-là. Voilà la règle pour une femme qui est enceinte. Barakallahu fikoum, surtout vous les femmes qui tombez enceintes, apprenez cette règle. Beaucoup de femmes ne savent pas quand est-ce qu'elle arrête de prier. tu dois toujours faire la prière. Même si le sang vient et part, vient et part. Tu as le sang, mais tu ne l'as pas. Quand tu ne l'as pas, tu essuies l'endroit et tu fais des ablutions. Parce que c'est un sang d'amfasset, ce n'est pas le sang débauché. Quand est-ce que tu vas donc arrêter la prière, arrêter Osmo? Non, quand est-ce que donc tu vas arrêter la prière? Tu arrêteras la prière quand le sang qui a commencé à couler ne s'est plus arrêté. Non, s'il a coulé hier, aujourd'hui il n'y a rien, aujourd'hui je lave mes parties intimes, je fais des ablutions. C'était un sang de rien, sans facette, un sang de veine. Mais maintenant, le sang a commencé à couler avec des contractions, il ne s'est plus arrêté, classe, je suis en période de logis, je ne dois pas faire la prière ni rattraper ce qui est passé. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. In asabtu fa min Allah azawajal, wa in akhtatu fa min nafsi, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A vendredi, bi'idhnillahi azawajal. Naam.